Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ok, c'est bon, on est en live. Salut, c'est Reg. Bienvenue dans ce nouveau podcast. J'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, c'est mon premier podcast enregistré avec la caméra et surtout diffusé sur YouTube, sur le podcast de Grégoire Dossier, du coup, sur ce nouveau podcast. Et donc, j'ai la pression. Là, ça veut dire que je peux pas faire de cut. Faut juste que je parle comme ça, comme lorsque je fais des conférences, et il y aura pas de montage dans cette vidéo, c'est un podcast. Donc j'ai la pression un petit peu, mais en tout cas ce podcast va être, je pense, intéressant. Ça va être peut-être même un des podcasts les plus importants que j'ai fait depuis le début des podcasts que j'ai fait, parce que je vais parler de comment changer de vie en une année. Comment est-ce qu'on pourrait, quelle serait la stratégie que je mettrais en place si aujourd'hui je voulais provoquer le plus gros changement possible dans ma vie, que ce soit la vie professionnelle ou la vie personnelle ou même la vie sentimentale. On va en parler un petit peu plus tard dans le podcast. Du coup, on va parler de ça aujourd'hui, et là je suis bien, je suis relax, j'ai pris une douche froide pour donner un petit peu de contexte à ce podcast. Je le fais pas tout le temps, mais à chaque fois que je le fais, je suis zen après, un truc de fou. ça me rend zen, et je pense que c'est limite, j'ai l'impression d'être shooté en fait, un petit peu comme les personnes qui en ce moment, il y a la mode du CBD, il y a des trucs, on met en avant ces produits là qui ont tendance à nous zénifier, mais moi la douche froide me fait ça, et après je suis bien, je suis relax, et voilà. Et c'est juste un petit conseil, si un jour ça vous tente, essayez les douches froides. Je pense que ça va vous apaiser, ça va vous déstresser. Ça a été prouvé de toute façon qu'il y a des effets sur le stress, la gestion du stress, et pour la santé mentale c'est très bon aussi. Donc voilà, c'est pour ça que vous me verrez probablement moins plus détendu que dans mes vidéos YouTube, et puis c'est aussi l'effet podcast qui fait ça. Maintenant que j'ai dit ça, avant de commencer sur comment est-ce qu'on peut changer de vie en une année, j'aimerais faire quelques précisions avant de commencer ce podcast, parce que c'est le premier podcast que je fais en solo sur cette nouvelle chaîne. Donc j'en profite pour parler. Je me suis fait une petite liste de choses, de sujets que j'avais besoin d'aborder avant de commencer, parce que j'ai reçu des commentaires sur les derniers épisodes, et ça me paraissait important de répondre à certaines questions et d'anticiper aussi certaines questions. Donc j'ai un petit, il y a 4-5 sujets à traiter. Je vais en parler. Pour ceux qui n'ont pas envie de m'écouter parler de ça, je vous mettrai à l'écran et sur la description du podcast, si vous l'écoutez sur les plateformes, directement le timecode à partir duquel je commence à vraiment parler du sujet du jour, donc changer de vie en une année. Mais pour ceux que ça intéresse, on va donc parler de Gymshark, on va parler des retours sur les derniers épisodes, on va parler des femmes, et on va parler d'être un meilleur intervieweur et des futurs guests que vous aimeriez voir sur le podcast. Ok, donc si ça vous intéresse, restez. Si vous voulez directement aller au sujet du podcast, je vous mets le timecode. Ok, on va commencer avec Gymshark. Il y a plusieurs personnes qui se sont demandé... Non, je vais commencer par les retours, parce que c'est important de commencer par ça. Je voulais juste vous remercier déjà pour les retours, parce que j'ai longtemps hésité à... Tiens, je vais virer mon téléphone, c'est pas poli d'avoir son téléphone pendant que je parle, voilà. En plus, comme ça, je serai pas diverti. Je disais, j'ai hésité à créer une nouvelle chaîne pour ce nouveau podcast. J'ai hésité du coup à les uploader directement sur ma chaîne principale, Grégoire Dossier. Et j'ai longtemps hésité, et je pense avoir fait le bon choix quand même en créant une chaîne secondaire, enfin une nouvelle chaîne pour ce podcast. Et je suis content juste des retours que vous m'avez donné ces dernières semaines, parce que l'épisode avec Paolo, donc le dernier épisode que j'ai tourné actuellement, il approche des 10 000 vues en même pas une semaine, ce qui est vraiment très bien pour une chaîne qui vient d'être créée. Et voilà, ça m'avait mis un peu la pression de créer une nouvelle chaîne, même si j'ai une chaîne principale qui s'est développée au cours des dernières années. Ça fait toujours peur de recommencer un nouveau projet, parce qu'on sait forcément qu'on va pas réussir à à décaler, à faire venir toute l'audience qu'on a sur sa chaîne principale à chaque fois qu'on crée un nouveau projet. Donc ça m'a quand même fait plaisir de voir que vous étiez présent. Et je vous spoil pas et je vais pas trop vous hyper non plus, mais dans les prochaines semaines, j'espère, si tout se passe bien, faire venir des noms très sympas sur le podcast. Et voilà, je pense que si déjà vous avez aimé les cours, je crois qu'on a fait 7 interviews depuis le début. On a eu Body Time avec CPJ, on a eu les Sherpas, on a eu Bazinga qui était avant, Bazinga qui est en deuxième, les Sherpas, Antoine BM, Eric Flagg, Mathias et Paolo. Et donc cette interview, aujourd'hui c'est le huitième, c'est le huitième épisode. Et déjà, si vous avez apprécié les épisodes, si vous avez appris des choses avec ces épisodes, vous devriez être très satisfait des prochains épisodes qui vont venir, parce que j'ai quand même une longue liste. Je vous en avais parlé un petit peu sur Instagram, mais j'ai prévu d'inviter de nombreuses personnes sur le podcast. Et donc je suis déjà content d'avoir réussi à inviter des personnes de ma liste, celle que j'avais faite avant de commencer ce projet. Et je suis content de ça, mais c'est que le début, c'est vraiment que le début. Le but, c'est de vraiment créer un des plus gros podcasts français en matière de d'amélioration de soi, de parcours inspirants, de personnes qui ont créé des choses, qui ont changé leur réalité, qui ont des choses juste intéressantes à dire, parce que je vais pas faire venir que des youtubeurs ou que des influenceurs musculation et entrepreneuriat, ce que j'ai un petit peu fait depuis le début, parce que moi c'est ce que je suis le plus sur YouTube. Mais le projet, c'est aussi d'inviter des personnes qui n'ont pas forcément de présence sur les réseaux sociaux, mais qui ont quelque chose d'intéressant à dire, des parcours inspirants, intéressants, différents, etc. Donc c'est vraiment que le début, mais déjà, si vous avez apprécié les premiers épisodes, je suis très content de ça. Et si ça devient notre rendez-vous du jeudi à 17h, ben, je suis très content aussi, parce que je pense que j'ai mon rôle à jouer dans le développement du podcast en France, et j'y crois à ce podcast, et je suis très content en tout cas des retours que j'ai eu sur les derniers épisodes. Par contre, il n'y a pas eu que il y a eu des critiques également constructives, je trouve. Deux qui sont revenues, et j'aimerais donc parler des femmes, parce que j'ai eu un mail d'ailleurs il y a quelques jours d'une personne qui me disait justement qu'elle avait du mal à s'identifier aux invités du podcast parce que c'était une femme. Et donc c'est vrai que pour l'instant, j'invitais que des hommes sur le podcast. Et la raison, comme je vous l'ai dit, c'est parce que moi, en effet, sur YouTube, je suis quasiment que des gars, je crois. J'ai pas beaucoup de femmes dans mon répertoire professionnel. Et donc, en effet, c'était plus simple pour moi d'inviter des gens avec qui j'avais déjà discuté. Donc, souvent des gars, parce qu'en effet, je suis dans la musculation, je suis dans l'entrepreneuriat, je suis sur YouTube aussi. C'est une plateforme où il y a plus d'hommes que de femmes. Donc, en effet, pour l'instant, j'ai invité que des hommes. Mais, comme l'a fait remarquer cette personne à juste titre, ce podcast, j'ai envie qu'il inspire le plus de personnes possible, et donc forcément que le plus de personnes se reconnaissent dans les invités. Et donc j'ai prévu d'inviter des femmes dans les prochains épisodes. Je recherche des invités femmes. J'ai fait quelques stories Instagram pour vous demander des noms, donc j'en ai maintenant en tête. Je vais contacter ces personnes de mon côté, mais si jamais vous avez d'autres recommandations à me faire, donc dites-les-moi en commentaire. Dites-moi si vous avez des personnes, des femmes à inviter sur le podcast, ça serait avec plaisir. Moi, je discute que avec... J'ai que Léna Dorable en tête, parce que je crois que c'est la seule créatrice avec qui je discute de manière régulière dans mes DM Instagram. Donc, il y avait Léna que j'avais en tête, sauf que Léna, on a déjà fait un podcast ensemble sur son podcast à elle, et puis surtout, elle habite à Marseille, donc c'est un petit peu... ça fait loin pour moi, mais pourquoi pas. Moi, j'ai Léna en tête, j'ai d'autres noms que je ne vais pas citer, parce que je préfère vous faire la surprise lorsque les invités arrivent sur le podcast. Mais si vous avez des recommandations donc féminines à me faire, faites-les en commentaire. Dites-moi en commentaire, dites-moi par mail, par message, peu importe, trouvez un moyen de me contacter pour me le dire. Mais en commentaire, je lis tous les commentaires du podcast, donc je le verrai si vous me répondez sous cet épisode. Et puis, on va faire venir des femmes, il n'y a pas de problème. Il faut juste que j'arrive à les contacter, du coup, que je vois ce qu'elle propose, que je découvre en fait moi-même des profils. J'ai envie de découvrir aussi ça va être l'idée de découvrir des nouvelles créatrices et nouveaux créateurs. Donc dites-moi tout ça en commentaire, et je trouverai un moyen de faire venir des femmes sur le podcast, et ce sera avec grand plaisir. Je crois que pour l'instant les seules femmes que j'avais en tête, à part Léna et les personnes avec qui les noms que j'ai en tête mais que j'ai pas envie de spoiler, il y avait aussi des personnes de ma famille en fait. J'ai aussi envie de faire venir des personnes, pourquoi pas mes parents un jour, mes grands-parents, pour parler de je sais pas, de l'éducation, ça pourrait faire un épisode sympa. Mais voilà, c'est vrai que pour l'instant, dans la liste, en effet, j'avais pas beaucoup de femmes parce que je suis très, je suis dans des endroits, je suis dans des les thématiques qui m'intéressent, il y a plus d'hommes sur YouTube que de femmes. Ensuite, ça c'était la première critique, on va dire, même si c'était vraiment pas méchant, c'était juste une remarque. L'autre remarque, c'était sur les conversations que j'avais avec les invités, qui j'ai eu quelques remarques qui me disaient que j'interrompais parfois trop l'invité, je le laissais pas assez s'exprimer. Et c'est vrai, le problème c'est que je m'en rends pas compte lorsque je fais l'interview, je m'en rends compte lorsque je fais le montage, et moi-même je me frustre parfois parce que je m'en rends compte lorsque je fais le montage, mais... je me rends pas compte lors de l'interview. Justement, je suis pas un intervieweur professionnel et je pense que sur YouTube et à la télé, on voit plus souvent des interviews, donc des vraies interviews où l'intervieweur ne discute pas là. Il est pas là pour discuter, il est là pour vraiment interviewer. Et c'est vrai que moi, comme j'avais des discussions avec des personnes avec qui j'avais déjà discuté, la plupart du temps, je me voyais mal me mettre dans la place d'un intervieweur. Alors qu'on avait déjà discuté et en fait je me voyais plutôt avoir une discussion avec ces personnes, et quand on est en discussion bah, on s'interrompt parfois. C'est juste que ça se remarque plus sur une vidéo YouTube parce que avec les micros, en fait on s'en rend pas compte. C'est pour ça que je m'en rendais pas compte lors de l'interview, c'est parce que en fait on s'en rend plus compte lorsqu'on fait le montage, et je me rendais pas compte que je coupais parfois la parole ou que j'avais en effet coupé la personne à la moitié de l'expression de son idée, et donc je m'en suis rendu compte en tout cas, et je vais améliorer ça dans les prochains épisodes, mais voilà, je pense aussi, et je préfère vous prévenir que je ferai, sauf si j'interviewe quelqu'un qui, avec qui j'ai vraiment jamais discuté, ou alors qui m'impressionne beaucoup et je sais pas, je me dis je vais vraiment pas essayer de caler des blagues ou d'avoir vraiment une discussion d'égal à égal, je pense que la plupart, si ça arrive pas, si je suis pas dans ce cas là la plupart du temps je vais simplement avoir une discussion comme on pourrait, comme si en fait il y avait pas la caméra, comme si on discutait vraiment comme si on n'était pas filmé en fait, avec les personnes que je rencontre, avec qui j'ai une conversation. Et d'ailleurs le podcast au début je voulais l'appeler Conversation avec Grégoire Dossier, donc j'ai pas trouvé de nom encore, mais pour l'instant je laisse le podcast de Grégoire Dossier. Mais c'est vrai que à la base ce podcast je voulais même l'appeler Conversation ou Une belle histoire ou Un bon moment, mais ça c'était déjà pris, donc j'ai pas choisi ce nom là mais attendez-vous quand même à avoir des conversations et pas des interviews purement faites par des intervieweurs professionnels. Je sais pas, quand vous voyez des vidéos faites sur Click, Mouloud, c'est un intervieweur professionnel. À la télé, souvent, c'est des intervieweurs professionnels que vous voyez. Moi, j'ai pas fait d'études en interview, j'ai pas toutes les compétences que ça demande, et voilà. En tout cas, je pense que vous apprécierez aussi le format conversation, format plus amical, un peu moins professionnel qu'on peut voir à la télé ou sur d'autres chaînes YouTube. Mais j'ai pris en compte ces remarques et j'essaierai de me bloquer comme ça lorsque j'aurai des pensées qui me viendront. Et en tout cas j'essaierai de laisser plus l'invité aller au bout de ses idées vraiment, parce que en effet ça peut être frustrant lorsqu'on voit l'interview ensuite, et moi-même comme je vous l'ai dit ça me frustrait parfois parce que j'avais remarqué ça. Ok, ça c'est un point aussi donc que j'ai abordé qui était intéressant, et c'est pour ça que c'est intéressant que vous me fassiez des remarques, surtout au début de ce podcast. Ensuite les femmes c'est bon, être un meilleur intervieweur c'est bon, qui vous voulez voir ensuite sur le podcast c'est bon, dites-le moi, même toutes les remarques, je vous ai parlé des femmes mais aussi toutes les recommandations sont bonnes à prendre, donc dites-moi ça, enfin surtout en dehors de YouTube, parce que sur YouTube c'est vrai que je commence à connaître pas mal de personnes, mais dites-moi des noms aussi, j'aime bien découvrir des nouveaux profils de personnes qui créent des choses intéressantes. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Et sur Gymshark, oui, rapidement, il y a des personnes qui se sont demandé si j'étais en froid avec Gymshark, parce que je commence à mettre des affaires qui ne sont pas des affaires Gymshark dans mes vidéos, c'est vrai. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème avec Gymshark. C'est juste que je pense que il faut pas. J'ai pas envie de faire la personne facile qui j'ai pas envie de. j'ai pas envie de. Comment dire, c'est trop simple pour Gymshark pour l'instant. Depuis le début de ma chaîne YouTube, je leur fais de la pub gratuitement. C'est-à-dire que ça fait 2 ans et demi que je suis sur YouTube, j'ai porté du Gymshark dans 80% de mes vidéos. C'est trop facile, c'est trop facile. Donc, je montre que je suis pas aussi facile à avoir que ça, faut le mériter, un partenariat avec Grégoire Dossier. Et du coup, c'est vrai que je montre que je peux porter aussi d'autres affaires. Et puis surtout, moi, je prends du plaisir à pas porter que du Gymshark, parce que sinon, je deviens un peu le cliché du gars qui, en effet, le mec, le fit boy, comment est-ce que ça s'appelle, le go muscu, qui met que du Gymshark tout le temps. Et même si j'adore cette marque et l'image, enfin, l'histoire de la marque, je m'autorise à mettre d'autres affaires aussi. Voilà, et donc je suis pas en froid avec Gymshark, j'ai toujours pour objectif d'être un athlète Gymshark dans le futur. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, j'ai eu une interview avec Nassim Saïdi pour son podcast à lui, pas le mien, qui sortira prochainement sur son podcast. Et à la fin de son podcast, il a toujours une question qui est quelle est la question que tu n'oses pas me poser, mais que tu peux me poser aujourd'hui. Et chaque invité a le droit d'avoir une question un petit peu difficile à poser, ou en tout cas, Nassim est obligé de répondre à cette question-là. Et moi, ma question, c'était, Nassim, comment est-ce qu'on fait pour devenir un athlète Gymshark? Parce que lui, il est athlète depuis un an ou plus avec Gymshark, et je voulais lui demander, je vais même demander un peu, je crois que c'est à la fin du podcast, ça a dû être filmé, mais je lui ai demandé en gros de me filer le contact de la personne qui s'occupe du recrutement des athlètes pour profiter du fait d'être avec Nassim pour lui demander ça, et donc il m'a donné quelques infos intéressantes. Et donc, je n'ai pas lâché l'affaire, simplement, je vais changer un petit peu de stratégie. Au début, je pensais que Gymshark venait aux athlètes, et en fait, c'est aux athlètes d'aller vers Gymshark. Et donc, j'attends de monter un petit peu sur YouTube, de toujours montrer que on va dire, progresser sur YouTube, de montrer toujours que je suis présent sur YouTube, et de monter, surtout sur tous mes réseaux également, donc Instagram, YouTube, TikTok, et voilà, de faire grossir les projets, d'augmenter ma visibilité, pour ensuite, lorsque je sentirai que c'est le bon timing, envoyer un beau mail à Gymshark, envoyer une belle lettre de motivation s'il le faut, pour être un athlète Gymshark et puis pouvoir accomplir cet objectif qui est là quand même depuis le début de la chaîne. Voilà pour Gymshark, ok ? Je pense qu'on a tout dit pour cette introduction. Ouais, c'est ça, j'ai tout dit. Je vais boire un petit peu et puis on commence avec comment changer de vie en 2022. Comment changer de vie en une année, en fait. Ça marchera dans toutes les prochaines années. Si tu écoutes ce podcast en 2025, ça marchera toujours, les conseils qui vont suivre. Ok, alors comment changer de vie en un an? C'est une promesse qui fait envie. Je sais que ça peut faire un petit peu développement personnel, cliché, comment changer de vie, se révolutionner, changer d'identité, etc. en un an, comment provoquer des changements dans sa vie. Ça peut faire très développement personnel, et je sais que c'est assez mal connoté, mais vous me connaissez maintenant, vous connaissez la chaîne, vous savez que je suis pour le fait de donner des conseils pratiques, des conseils pas simplement essayer de donner des conseils qui sont vraiment issus de mon expérience et qui donc ont une chance de marcher dans votre vie à vous également. Et je vous assure que on sous-estime ce qu'on peut faire en une année. On sous-estime l'impact qu'on peut créer dans notre vie, le changement qu'on peut avoir dans notre vie si on prend la décision de changer cette année. Si on se dit que cette année, c'est l'année de notre changement, et si surtout on met en place une liste d'étapes. Et c'est les étapes qu'on va voir dans cette vidéo. Il y a 5 étapes, selon moi, à suivre si l'on veut le plus vite possible provoquer un changement dans sa vie. Parce que je pense avoir eu... et d'ailleurs, je ne me rends toujours pas compte, mais c'est vrai que, en soi, moi, ça fait que 3 ans. 3 ans que j'ai vraiment pris la décision de changer vraiment ma vie. Et quand je vois ce qui s'est passé dans ma vie ces dernières années, c'est assez fou. Et ça fait toujours bizarre, parce que 3 ans, en soi, ça peut faire beaucoup comme ça, mais quand je vois que j'ai fait 5 ans d'études et que c'est allé vite, je me dis que 3 ans, c'est vraiment pas énorme. C'est quoi 3 ans dans une vie pour créer des changements qui vont t'impacter les 30 prochaines années, en fait, qui risquent de te mettre sur les bons rails pour les 30 prochaines années. Et donc, maintenant que j'ai compris ça, moi je me dis en effet que j'ai expérimenté ça, je me dis que un an, c'est vraiment pas beaucoup. Et ça peut sembler beaucoup, surtout si c'est un an de changement où on va essayer de s'améliorer, qu'on sait qu'il va y avoir des efforts, qu'il va y avoir des remises en question, ça peut faire beaucoup, mais je t'assure que un an, ça passe très vite, un an. D'ailleurs, j'ai corrigé depuis le dernier podcast, j'avais dit qu'un an c'était 40 semaines, alors que maintenant j'ai regardé, je crois que c'est 52 semaines, une année. Mais dis-toi que quand on voit maintenant à quelle vitesse passent les semaines, 52 semaines, ça peut faire beaucoup comme ça, mais ça passe très vite, une année. Donc, en une année, il peut se passer beaucoup de choses, à condition de mettre en place les bonnes étapes. Moi, j'ai noté 5 étapes. C'est vraiment les étapes qui ont changé ma vie à moi et donc qui ont une chance de changer ta vie à toi. Je vais pas parler d'habitudes comme les habitudes qu'on connaît, comme lire des livres, méditer, se balader, qui sont bonnes, qui sont vraiment bonnes, mais je vais parler plutôt d'étapes à suivre. Et c'est pour ça que cette vidéo, elle est particulière. J'ai jamais présenté les choses comme ça dans n'importe quelle vidéo. J'ai jamais pris le temps de me poser comme ça pour parler de ça, mais je suis sûr que en vous donnant les étapes que j'ai suivies moi pour changer ma vie très rapidement, vous allez également pouvoir provoquer des changements dans votre vie. Et encore une fois, je vous le répète, ça fait très développement personnel, mais là on parle purement du bon côté. On est vraiment du bon côté du développement personnel. C'est vraiment l'amélioration de soi pure, améliorer sa vie, reprendre du contrôle dans son quotidien pour ensuite, pourquoi pas, améliorer la vie de son entourage. Mais naturellement, quand tu vas t'améliorer toi, tu auras un impact sur ton entourage. Mais là, on parle vraiment de ça, de s'améliorer soi. Et on ne tombe pas, je pense, dans le cliché du développement personnel, dans les penchants négatifs, on dira. Donc, voilà, petit disclaimer, parce que les mots que je vais utiliser, ça peut sembler développement personnel, ça l'est, mais selon moi, c'est vraiment, il n'y a pas de volonté d'influencer la personne ensuite pour quoi que ce soit, pour lui faire acheter quoi que ce soit. Il y a rien dans cette vidéo qui est là pour t'influencer de manière négative. C'est purement des conseils qui peuvent faire évoluer quelqu'un de manière très rapide. Voilà, ça c'était le petit disclaimer. Maintenant, le premier conseil qui moi a changé ma façon de voir les choses, c'est avant même de parler des étapes concrètes à mettre en place pour avancer cette année, il faut que tu comprennes que ton identité évolue tout le temps. J'avais lu quelque chose dans un livre, une étude intéressante, et je ne sais plus exactement l'année en question, je ne sais plus combien d'années en question, mais il me semble avoir lu que nos cellules se renouvelaient tous les 7 ans. En gros, les cellules, au bout de 7 ans, les cellules de ton corps n'étaient plus du tout les mêmes, que limite tu n'étais plus du tout la même personne si on analysait tes cellules. Et j'ai trouvé ça fou, et je pense qu'on présente assez peu les choses comme ça dans notre vie, parce qu'on a toujours cette idée qu'on est défini par notre passé, et donc que ce qui s'est passé il y a 6 ans, ce qui s'est passé il y a 4 ans, ce qui s'est passé il y a 2 ans, c'est toujours nous, et donc on ne peut pas s'échapper de... On n'a pas le droit d'évoluer. Et d'ailleurs, plus on grandit, et plus c'est marqué ça chez les gens, parce que c'est... plus tu grandis et plus tu as de chances d'avoir répété des schémas, d'avoir répété des affirmations et donc d'avoir construit une identité qui devient de plus en plus difficile à modifier. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que cette identité, elle était tout le temps, elle était en perpétuelle évolution, et tu peux la définir avec tes actions, avec tes pensées, avec ce que tu fais aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es en train de faire évoluer ton identité. Et donc, si dans les prochaines semaines, tu changes complètement les actions que tu fais, ton identité aura complètement évolué dans un an. Le problème, c'est que la plupart des personnes n'ont pas pris conscience de ça, que notre identité change, et continuent de répéter les mêmes habitudes, continuent de répéter les mêmes actions par habitude et par routine, justement, sans implémenter sans faire de l'effort de vraiment changer leurs actions, de changer tout ce qu'on va changer nous dans cette vidéo, avec les étapes de cette vidéo. Et donc, en fait, elles pensent que leur identité n'évolue pas, alors que c'est juste qu'elles répètent toujours les mêmes actions, et donc elles auraient pu faire évoluer leur identité, mais elles se contentent elles avancent dans le temps, mais leur identité n'évolue pas. Elles n'ont pas provoqué ce changement d'identité. Et si moi je te dis ça, c'est parce que ce que je représente aujourd'hui sur YouTube, c'est l'exact opposé de qui j'étais il y a 5 ans. Ou 6 ans, parce que j'ai, on va dire au lycée, fin du lycée, début d'études. Aujourd'hui, il y a des personnes qui me trouvent discipliné, il y a des personnes qui me trouvent motivant, il y a des personnes qui trouvent que je fais beaucoup de choses pour quelqu'un qui a 23 ans, et vraiment, la personne que j'étais il y a 5 ans, c'était l'extrême opposé, c'était les personnes qui me trouvaient feignante. Je l'ai déjà montré, mais mes bulletins scolaires, ils sont remplis de personnes, de professeurs qui me disent que je suis feignant, que je vais pas au bout des choses, que je bâcle mon travail, que je suis pas attentif, que des avis qui vont dans le même sens, en fait, que je fais pas les choses bien, que je fais pas les choses à fond, et que je manque de discipline. D'ailleurs, ça m'avait choqué, j'ai retrouvé un bulletin de scolaire de 6e où t'as un professeur qui me dit que je manque de discipline, et je trouve ça, même si je suis pour la discipline des enfants, et de partager ce genre de valeurs à l'école et de transmettre ce genre de valeurs, je trouve ça assez choquant qu'on parle de discipline à un enfant de 6e qui a donc, je sais pas 12 ans, non, je sais pas, je sais plus, j'ai perdu le fil des années, mais je crois que quand t'es en 3e, t'as 15 ans, donc ça ferait 14, 13, 12, 11 ans. 11 ans, quand t'as, pour un enfant de 11 ans, 12 ans, parler de discipline, je trouve ça assez... Assez tôt, en fait. Je pense que d'ailleurs, la plupart des personnes commencent à construire de la vraie discipline vers 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans. Les personnes qui souvent ont fait du sport tôt dans leur vie la développent beaucoup plus tôt que la moyenne. Mais la discipline, la vraie discipline, le fait de vraiment être se considérer comme discipliné, je trouve que ça arrive plus tard. Et en 6e, je trouve ça un petit peu tôt de parler de discipline. Enfin bref. Je change de sujet, je reviens sur l'identité. Mon identité a radicalement évolué en quelques années et j'en suis très content parce que ça a été un choix justement. C'est pas comme les personnes qui petit à petit, sans s'en rendre compte, se construisent un entourage toxique ou alors rencontrent une personne qui lui présente une autre personne et puis se rend compte qu'elle est rentrée dans un groupe qu'elle n'a pas envie vraiment avec qui elle n'a pas envie d'être. Et petit à petit, son identité change parce que tu es toujours la somme des personnes que tu écoutes le plus. Et donc, son identité change. Ça, c'est pour moi l'identité... un changement d'identité que tu n'as pas désiré. Et ça, ça va pas forcément aller dans ton sens. Si tu l'as pas choisi, c'est rarement que ça va dans ton sens. Toi, il faut que tu choisisses l'identité que tu veux avoir. Qui est-ce que tu veux être dans un an? Qui est-ce que tu veux représenter dans un an? Et tu peux être qui tu veux. Et je parle pas de... Il y a des personnes à qui tu pourrais leur dire ça et te dirais « Ouais, mais moi, je veux être grand, musclé, beau, fort, intelligent, etc. » Je te parle juste de... qui tu veux représenter, tout en gardant ton visage. Tu seras toujours la même personne. Tu peux améliorer ton visage. Enfin, tu peux améliorer. Il y a un terme en anglais le fait d'être attirant. Tu peux, franchement, le sport peut aider par exemple à être plus attirant, même avoir un visage plus attirant, des traits plus dessinés pour les personnes que ça intéresse. Mais là, je parle purement juste de qui est-ce que tu as envie de représenter dans un an et qui tu représentes aujourd'hui. Pour voir d'où tu pars et pour savoir où tu vas aller et où tu veux aller. Et moi, quand j'ai fait ce constat sur mon identité, sur qui je représentais et qui j'avais envie de représenter, je voulais représenter quelqu'un de discipliné, quelqu'un justement... En fait, on a souvent envie d'être l'opposé de qui on était et je pense que c'est bien. En fait, je pense qu'on a besoin de vivre une vie où on a expérimenté plusieurs identités dans le sens où on a représenté plusieurs, on a évolué tout simplement. C'est pour expérimenter en fait. J'ai envie d'expérimenter. Moi, j'ai expérimenté une vie où j'étais quelqu'un de beaucoup plus donc feignant, l'élève que j'ai décrit lorsque j'étais au lycée. À l'époque, ça me paraissait pas dangereux. Enfin, j'étais content d'être feignant à ce moment-là. Sauf que j'ai compris, arrivé à mes 18 ans, que ça allait pas suffire. Enfin, que j'allais devoir évoluer si je voulais avoir une place dans la société, une bonne place dans le sens monter socialement, comme j'en avais parlé avec Paolo dans mon dernier podcast. J'ai compris que ce personnage que j'avais au lycée de personne un petit peu feignante, un petit peu drôle, un petit peu je m'en foutiste, qui plaisait au lycée parce que j'étais un lycéen, ça allait pas forcément m'aider plus tard à monter socialement et à être épanoui. Surtout, ça me plaisait plus. Je venais de me faire quitter, j'étais pas en bonne santé, j'avais pas d'ambition, ça me plaisait plus. Je voulais plus représenter ça. Et donc, forcément, comme beaucoup de personnes, j'avais envie de représenter l'inverse et donc plus de discipline, plus de motivation, plus de sport. C'est à ce moment-là que je me suis engagé dans la réserve de la gendarmerie et donc que j'ai été formé par des gens qui s'appellent des gendarmes de l'antenne GIGN et qui m'ont beaucoup inspiré dans ma vision de la masculinité et du travail, de l'effort, etc. Et j'ai été forcément beaucoup inspiré à ce moment-là par ces personnes. Et donc, je me suis mis dans le sport et j'ai commencé à redéfinir mon identité. Mais ici, on parle de toi. J'ai envie de parler de toi. J'ai pas forcément envie de parler de moi, mais il faut comprendre que c'est mon expérience. Donc, je parle avec les expériences que moi j'ai vécues, l'expérience que moi j'ai vécue. Et donc, si tu peux me faire un dessin. Là, j'ai un carnet devant moi, donc je peux en profiter. Si j'étais toi, je ferais vraiment un dessin. Grégoire. Alors moi, quand je dessine, c'est vraiment très simple. Hein, donc j'ai 23 ans, mais c'est toujours les personnages bâtons. Hein, donc c'est toujours, ça ressemble toujours à ça quand je dessine. Mais En gros, vraiment, si j'étais à toi, si j'étais à ta place, je prendrais un morceau de papier, je ferais un dessin et je dessinerais la personne que j'ai envie de devenir dans un an. Et je sais que ça peut paraître un peu stupide dit comme ça, mais je crois que en effet le Grégoire de maintenant, on va dire, je l'avais imaginé avant et je pense que ça a eu un impact dans la réalisation de mes objectifs. Et d'ailleurs, je pense que l'imagination, c'est la chose la plus, la capacité, la compétence la plus sous-estimée de l'humain. L'imagination, je pense pas que mes chats aient ça. Je pense pas que les animaux aient ça autour de nous. Faudrait voir en fonction des animaux. Mais je pense que l'imagination, c'est quelque chose d'humain. Et c'est ce qui nous rend humains. Et c'est ce qui fait la force des humains. C'est cette capacité à imaginer le futur avant qu'il n'existe. C'est cette capacité à se projeter dans des situations futures avant qu'elles n'existent. C'est un petit peu aussi la définition de l'anxiété. C'est aussi pour ça que les humains, on est souvent plus anxieux que probablement des animaux qui ne s'imaginent pas des scénarios futurs. Mais je pense que cette compétence à double tranchant, donc des humains, de pouvoir s'imaginer dans des scénarios futurs, ça peut être aussi une grande chance dans le sens où on peut s'imaginer dans... Je me suis imaginé la situation que j'ai aujourd'hui, le fait que je fasse des vidéos sur YouTube, que ça marche bien, que j'ai une communauté qui me suive, qui m'écoute, qui soit là, qui écoute mes podcasts, ça, tout ça, je l'ai imaginé ici. Et j'aime bien me dire que si je l'ai imaginé ici, quand je l'imagine ici, si j'arrive à l'imaginer ici, ça s'est déjà produit quelque part. Ça sera pas forcément produit dans le monde réel. Peut-être que j'ai eu des imaginations, des visualisations, comme on dit, qui se sont pas produites. Mais j'aime bien me dire que si je l'ai imaginé ici au moins une fois et que je l'ai vraiment imaginé, il y a des chances que ça se produise ensuite dans le monde réel. Et il y a énormément d'exemples de ça. C'est un vrai terme, ça s'appelle la loi de l'attraction. Mais j'ai pas forcément envie d'utiliser ce terme parce qu'encore une fois, ça fait très développement personnel. Et je pense que ça peut aussi se résumer à de l'effet placebo, même si non, il y a aussi une dimension supérieure à ça. Mais voilà, comment dire ? Pour revenir sur l'imagination, je pense que c'est la faculté qu'on sous-estime le plus, qu'on utilise le moins, et on a tort parce que l'imagination, c'est extrêmement puissant. Et j'avais lu sur Léonard de Vinci, il me semble, c'était quelqu'un qui imaginait beaucoup. Il a créé énormément de choses. C'est avec Paolo justement que j'en avais parlé. Du coup, je me suis renseigné sur le personnage, j'ai vu qu'il avait créé énormément de choses différentes, et je pense que c'était quelqu'un qui imaginait beaucoup avant de créer. Et je pense que beaucoup d'artistes, même DJ Snake, on avait parlé pour complètement changer le chat, il passe de DJ Snake à Léonard de Vinci. DJ Snake, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui crée, et il me semble dans une interview qu'il avait dit il s'était imaginé réussir déjà, ça c'est un peu la base, mais il s'était imaginé réussir un hit mondial avant de l'avoir fait, et ensuite le hit, il arrive après le travail. Évidemment, il faut travailler, il ne faut pas juste imaginer les choses, mais j'ai eu énormément de cas de personnes qui ont imaginé quelque chose, qui ont beaucoup travaillé ensuite en direction de cet objectif et de cette visualisation, et qui ont réussi ensuite. Et on peut y croire ou pas, moi je dis juste que si jamais il existe quelque chose comme l'univers, on dira, quelque chose comme, imaginons que quelqu'un veille sur nous, quelqu'un de plus grand qu'un humain veille sur nous, et que de temps en temps, il zoome un petit peu sur notre vie à nous individuellement, et qu'il se dit, tiens, il a quand même envie de... Imaginons qu'il a un choix, il est choix entre deux personnes, il te voit toi et te voit une autre personne dans la France, et vous deux, vous avez le même objectif. J'aime bien me dire que s'il y a quelqu'un qui décide un petit peu de toutes ces choses-là, s'il y a quelqu'un de plus grand que nous, un dieu, l'univers, le karma, peu importe, un truc plus grand que les humains, si ça existe, j'aime bien me dire que à choisir entre une personne qui veut simplement quelque chose mais qui l'a pas forcément imaginé et une personne qui veut vraiment quelque chose, qui a imaginé la situation et qui respire l'objectif, qui vit l'objectif, je pense que l'univers aura tendance à choisir cette personne-là, cette personne qui a vraiment voulu cette chose-là, qui l'a imaginée, qui a fait l'effort d'imaginer, et même de manière beaucoup plus, si on redescend un petit peu sur Terre et qu'on se dit que de manière beaucoup plus rationnelle, juste si on revient juste dans le monde plus rationnel, le fait d'imaginer quelque chose, je pense que ça a un impact aussi, parce que ça nous donne juste une vision long terme, et donc ça nous motive plus. Il y a une vidéo dans les prochaines semaines qui va arriver sur ma chaîne, où je vais parler de pourquoi les personnes sont déprimées actuellement, pourquoi beaucoup de personnes sont déprimées actuellement, et je pense que c'est parce qu'il y a très peu de personnes qui ont une vision long terme actuellement. On est la génération la plus court-termiste qui n'ait jamais existé, et pour de nombreuses raisons. C'est aussi parce qu'on a connu, on connaît une époque où tout change très vite, et je pense que il y a beaucoup de points positifs à trouver dans notre génération. En tout cas, je pense qu'on a intérêt à être court-termiste dans notre génération. C'est pour ça que je parle de changer de vie en un an et pas forcément en 15 ans, parce que ça nous motive plus et c'est plus cohérent dans notre vie de vouloir changer de vie rapidement plutôt que de faire des plans maintenant sur 15 ans. On l'a vu maintenant, faire des plans long terme, ça a assez peu d'intérêt dans notre génération. Mais je pense que avoir un objectif long terme, c'est vraiment la chose la plus importante pour avoir du sens dans sa vie, ou au moins de comprendre que les actions que l'on fait aujourd'hui, ont un impact sur le long terme. Ça, c'est vraiment la base, et je pense que on a justement 80% des personnes ont perdu ça, ne comprennent pas l'intérêt de ce qu'elles font aujourd'hui pour le futur, ont perdu cette relation entre elles et leur futur, entre le nous et le futur nous. Et je pense que c'est pour ça que autant de personnes sont déprimées. Sans parler de la nutrition, du manque de sens, peut-être aussi du manque de religion, du manque de plein de choses qu'on a dans notre génération, parce qu'on nous apprend assez peu de choses. On nous lâche un petit peu comme ça dans la nature, et après on doit se débrouiller. Et santé mentale, etc. Il y a beaucoup d'autres raisons qui expliquent peut-être probablement que beaucoup de personnes sont déprimées dans notre génération. Mais je pense que la vision long terme, ça peut être un remède justement à la déprime. Donc j'en parlerai dans ma vidéo YouTube. Mais voilà, c'est je pense le premier point, c'est celui d'imaginer la situation et donc de comprendre, parce que c'était le premier point quand même, c'était de comprendre que notre identité évolue tout le temps, que tu as le droit de changer d'identité, je te le dis, si jamais on te l'a dit, tu as le droit de pas être la même personne, tu as le droit de représenter une personne complètement différente, tu as le droit de passer de fêtard à sportif, ou de sportif à fêtard, je sais pas, c'est plutôt souvent dans le sens inverse, parce que il y a quand même des trucs qu'on trouve dans le sport qu'on n'a pas envie de perdre ensuite, mais ça peut être aussi une vie équilibrée, hein. Ça peut être une personne très sportive, mais qui ne profite pas assez de la vie selon elle, qui va devenir un petit peu plus fêtard, et donc trouver une vie plus équilibrée. Ça peut être aussi, je sais pas, une personne qui avant avait l'impression de faire du mal autour d'elle, qui va ensuite vouloir faire du bien autour d'elle. Ça peut être une personne qui avait des mauvais résultats scolaires, qui va prendre sa revanche, et donc avoir des meilleurs résultats. Mais voilà, choisis ton personnage, crée ton personnage, définis qui tu as envie d'être, et si tu ne sais pas qui tu veux être, trouve des personnes qui t'inspirent, et tu, un peu comme Paolo l'avait dit dans le dernier épisode, trouve des personnes qui t'inspirent, fais un mix de tout ça, et ce mix, ça sera toi, parce que toi tu es unique, et tu devrais pas copier le style d'une personne, mais donc inspire-toi de personnes, trouve des personnes qui t'inspirent, et toi tu seras le mix de tout ça, et ce mix, ça sera toi. Et commence par définir ton identité, dessine qui tu veux être dans un an, dessine la meilleure version de toi-même. Si tu passais devant une personne, imaginons que tu croises dans la rue ton futur toi dans un an, et tu te dis, ouais, ce mec, cette fille, elle a vraiment la classe, à quoi est-ce qu'il ressemblerait, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait, cette personne. Fais ça, et tu auras fait déjà plus que 80% des personnes, en fait, parce que 80% des personnes ne vont pas faire ça, ne vont pas prendre le temps de faire ça, et même les personnes qui regardent cette vidéo, tu verras que, enfin, tu ne verras pas, mais moi je le sais, 90% des personnes qui vont regarder cette vidéo ne vont pas appliquer les conseils de cette vidéo. Et donc si tu écoutes cette vidéo, que tu appliques les conseils de cette vidéo, tu auras fait plus que 99% de la population, et comme par hasard, tu auras des résultats meilleurs que 99% de la population. Ça peut paraître simple, mais c'est parfois aussi simple que ça. Applique les conseils de cette vidéo et continue évidemment d'apprendre, de lire des livres, de ne pas m'écouter que moi, et de faire tes recherches aussi de ton côté. Mais ça, c'est vraiment le guide de base pour améliorer sa vie en un an. Ok ? Première étape faite, notre identité évolue tous les jours. Tes cellules évoluent, tes propres cellules évoluent, ton propre corps évolue. Alors pourquoi toi tu n'aurais pas le droit d'évoluer, toi non plus. Est-ce que pourquoi est-ce que toi tu n'aurais pas le droit d'évoluer alors que même ton corps évolue? En fait, ton corps même parfois te demande d'évoluer, j'ai l'impression. Donc voilà, suis le mouvement de ton corps qui se renouvelle toutes les 5, 7 années, on ne sait pas exactement, et fais évoluer ton identité. Ensuite, deuxième point, l'environnement, c'est absolument tout. Ça c'est le deuxième point. Il faut comprendre que tu es probablement aujourd'hui la somme de ton environnement, donc les personnes que tu vois au quotidien, les personnes que tu écoutes, on va dire la positivité ambiante de ton quotidien ou la négativité ambiante de ton quotidien, tu es tu es la somme de tout ça. On remarque de manière générale que souvent les enfants sont à la même banque que les parents, les enfants ont les mêmes opinions politiques que leurs parents, ou un peu moins dans notre génération, mais c'était un peu plus le cas dans les générations d'avant. Les enfants ont souvent suivent un peu les mêmes pas que les parents, sans s'en rendre compte, parce que parfois on a une volonté de rébellion par rapport aux parents, et donc on a envie de faire vraiment pas le même chemin, mais même si on oublie un petit peu la famille, on est souvent le mélange donc des personnes que l'on voit au quotidien, des personnes qu'on entend au quotidien. Et donc si par exemple dans ton entourage tu es le seul à vouloir arrêter de fumer et que tout ton entourage fume, ça va être très compliqué. Si tu es la seule personne qui veut se mettre au sport dans ton entourage et que personne d'autre dans ton entourage veut se mettre au sport, ça va être compliqué. Pourquoi ? Parce que ton environnement, c'est tout, et tout est une question de référence. Et ça, je l'avais dit dans une vidéo que j'avais faite sur le sport. Je suis convaincu que si aujourd'hui par exemple tu veux te remettre au sport et que tu as du mal à te remettre au sport, si je venais passer quelques semaines avec toi, tu serais sportif dans 10 semaines si c'est vraiment un truc qui te plaît, et tu aurais des résultats dans 10 semaines. Parce que moi, dans mon environnement, ça tourne toujours autour des mêmes choses, du sport, de l'amélioration de soi, de YouTube aussi, parce que c'est un domaine qui me passionne. Mais moi, mon environnement est vraiment, vraiment très axé là-dessus. Et donc, pour moi, c'est normal d'aller à la salle de sport. Et ça ne l'était pas au début, parce que justement, il y a quelques années, mon environnement n'était pas du tout adapté à ça. Et ce que j'ai fait, à défaut de mettre toute ma famille au sport, ce que j'aurais pu faire, mais ce qui était très compliqué à faire, et surtout, enfin, c'est pas, j'ai pas envie d'être le dictateur de la famille. Moi, j'ai envie d'inspirer la famille, mais j'ai pas envie d'être le mec chiant qui a envie de mettre toute la famille à la même passion que lui, de convertir tout. J'ai pas envie d'être un mec qui convertit, c'est ça. J'ai envie d'être un mec qui motive, mais par l'exemple, pas en essayant de convertir toute la famille avec des arguments à longueur de journée. Bref, j'avais deux choix en gros. Soit je changeais tout mon environnement, c'est-à-dire que je mettais toute ma famille au sport pour qu'on soit dans la même dynamique, soit je prenais tous mes abonnements Instagram, tous mes abonnements YouTube, et je remplaçais tous les gens que je suivais par des gens qui faisaient du sport. Je sais que ça fait un peu extrême, et d'ailleurs c'est pas ça que je recommande. Moi, ce que j'avais fait donc, c'était que j'avais carrément viré tous mes abonnements Instagram et je les avais remplacés que par des coachs sportifs. j'avais suivi Thibaut InShape, j'avais regardé les abonnements de Thibaut InShape, j'avais tapé, j'avais mis hashtag TeamShape, hashtag coach sportif, hashtag muscu, hashtag fit, hashtag fitness, etc. J'avais suivi tous les coachs sportifs imaginables qu'il y avait sur YouTube pour créer un environnement de personnes qui vont à la muscu. Et donc tous les jours, je voyais des stories de personnes qui étaient à la salle de muscu, 8h, 9h, 10h, il y avait forcément des personnes qui allaient à la salle et qui postaient donc au moment où elles s'entraînaient. Et dans ma tête, c'était impossible que j'aille pas à la muscu, parce que j'avais l'impression que le monde entier allait à la muscu, alors que c'était qu'une partie de la population. Mais j'avais ciblé cette partie de la population pour modifier mon environnement. Parce que maintenant, on a la chance d'avoir un environnement virtuel et un environnement, on va dire, concret, réel, dans le monde réel. Et moi, et souvent, notre environnement réel, il coïncide, il va pas du tout dans la même direction que notre, que, on va dire que tu, il y a peu de chances aujourd'hui que tu aies une passion en commun avec beaucoup de personnes de ton entourage. Il y a beaucoup de chances, il y a peu de chances que aujourd'hui, je sais pas si dans les prochains jours tu veux te lancer un objectif, qu'il y ait des personnes de ton entourage qui veulent exactement la même chose. Et donc il y a beaucoup de chance, ça fait beaucoup de peu et de beaucoup, bref. Moi par exemple, j'ai jamais eu un seul projet qui m'a passionné, avec qui j'ai pu me lancer en même temps avec un pote. Et pourtant, j'ai pas des potes qui ont, on n'est pas non plus extrêmement différents avec mes potes. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'envie de lancer un projet en même temps, on n'a jamais eu une passion en commun en même temps. Et donc, moi, je me suis servi de mon environnement virtuel pour m'améliorer. Donc, si tu veux retenir une action déjà de cette vidéo, une action de ce podcast, si tu veux te lancer dans un objectif, remplis ton feed Instagram, remplis ton feed YouTube de personnes qui vont dans la même direction. C'est hyper puissant. C'est le pouvoir numéro 1 d'Internet, avec le fait qu'on apprenne sur Internet, le transfert de connaissances sur Internet. C'est ça. C'est cette capacité à se recréer un environnement une bulle, justement, j'en avais parlé avec Antoine BM, mais vraiment la bonne bulle, une bonne petite bulle positive qui va te permettre de te rassembler, de rassembler des personnes qui vont dans la même direction que toi. Et ça, c'est hyper puissant. C'est aussi puissant qu'une secte, en fait. C'est aussi pour ça que l'effet bulle, on en avait parlé avec Antoine, parce qu'il y a les dérives. Il y a les personnes qui vont se mettre dans une bulle, avoir toujours les mêmes opinions qui nous assomment et donc qui vont se radicaliser, ou alors qui vont ne plus jamais développer d'esprit critique, qui vont perdre leur esprit critique parce qu'elles vont toujours faire face aux mêmes arguments et donc s'abrutir, en fait, vont perdre toute capacité de réflexion. Ça, c'est le problème de l'effet bulle. Mais toi, si ton objectif, c'est pas de faire un truc terrible dans... Je sais pas, si ton objectif, c'est juste de faire du sport ou de t'améliorer sur YouTube ou d'apprendre des choses sur le montage vidéo ou d'apprendre n'importe quelle compétence, ça va, hein, tu peux te mettre dans une bulle, il n'y aura pas de problème, tu vas pas devenir une personne très radicale dès les prochaines semaines. Tu vas être par contre radical dans tes actions. Et ça, c'est bien. Et donc, vraiment, c'est aussi simple que ça. C'est tous tes abonnements... Alors, pas tout, justement. Moi, j'étais un peu radical, justement, dans le fait où je me suis même embrouillé avec des potes qui pensaient que je les aimais plus parce que j'avais suivi... j'avais donc unfollow tout le monde sur mon Instagram, alors qu'avant, c'était mon compte perso, donc j'avais que des potes et que de la famille. Et j'ai unfollow tout le monde et j'ai suivi que des coachs sportifs, des coachs business, c'est tout, c'est déjà bien, mais j'avais genre 150 abonnements Instagram, mais c'était que des coachs ou que des gars qui étaient dans la même dynamique que moi. Et donc forcément, bah, y a des personnes qui ont pensé que je les aimais plus. Mais c'est pas parce que je les suis plus sur Instagram que je les aime plus. Mais voilà, moi je recommande pas forcément de faire comme moi. C'est vrai que pour le coup j'ai été assez radical dans cette démarche, mais toi je te conseillerais plutôt d'avoir 70-30%, un truc comme ça. 70% de personnes qui vont dans la même direction que toi, et garder ce noyau dur quand même d'amis, de famille et de comptes aussi qui t'apprennent pas forcément des grands choses sur YouTube ou sur les réseaux, mais qui vont te divertir, qui vont te faire penser à autre chose. Juste des personnes dont tu aimes la personnalité et qui t'apprennent pas forcément des milliers de choses. Faut avoir un petit peu tout. Mais je pense qu'il faudrait, si tu veux vraiment changer de vie en un an, il faut suivre au moins 70% de personnes qui vont t'apprendre des choses, qui vont te pousser dans la bonne direction et qui vont te mettre dans cette bulle justement dans laquelle tu as envie de progresser. Et d'ailleurs, c'est même pas juste une question de connaissance et de progression, c'est une question de réseau aussi. Moi, les personnes que j'ai suivies à ce moment-là, quand je me suis mis dans la muscu, bah devine quoi, c'est des personnes que j'ai interviewées sur le podcast. Eric, Bodytime, Bazinga, c'est des personnes qui sont devenues, qui sont dans mon réseau maintenant, parce que je me suis passionné dans cette industrie, l'industrie du sport, je me suis passionné pour ça, et j'ai appris à rencontrer les personnes qui faisaient partie de cette communauté, tu vois, et on en reparlera de la communauté, c'est hyper important, et donc ça part de là, ça part de tes abonnements, ça part des personnes que tu suis, parce que tu es la somme des personnes que tu écoutes, tu es la somme des personnes maintenant que tu suis sur les réseaux, parce que tu passes beaucoup de plus de temps en réalité avec les personnes que tu suis sur les réseaux qu'avec tes propres amis, souvent, et même qu'avec ta propre famille, la plupart du temps. Donc, il faut prendre conscience et il faut suivre les personnes sur les réseaux qui vont t'apprendre des choses, qui vont peut-être te divertir, mais en tout cas qui vont te pousser vers le haut, qui vont t'apprendre à réfléchir, qui vont te pousser à réfléchir et qui vont t'apprendre des choses. Ok, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que tu vas devoir choisir une priorité parmi quatre priorités, parmi quatre composantes de ta vie. La première, c'est la santé mentale. La deuxième, c'est ta vie professionnelle et ta carrière. La troisième, c'est ta vie sentimentale. Et la quatrième, c'est ta santé physique, c'est ton physique, c'est ton corps. Tu vas devoir choisir une de ces quatre priorités. Pourquoi je te dis ça ? Parce que la plupart des personnes veulent tout changer d'un coup, et même si j'aime en effet cette vision, parce que c'est toujours plus motivant de se dire qu'on va arriver à tout changer d'un coup dans sa vie, je me suis rendu compte que les fois où je progressais le plus vite, c'est lorsque je me concentrais vraiment sur une chose dans ma vie, justement, donc santé mentale, vie professionnelle, vie sentimentale et physique. L'avantage, c'est que si tu prends soin de n'importe quelle de ces composantes, parce qu'elles sont hyper importantes dans la vie, tu vas prendre soin de ta santé mentale également. En fait, ta santé mentale va s'améliorer, parce que ce qui détruit la santé mentale, c'est l'inaction surtout, c'est le fait d'être inactif et de se poser beaucoup de questions. On parlait justement de cette capacité qu'on a les humains à imaginer des scénarios futurs. C'est ça qui détruit les humains, et le problème... qui peut détruire les humains, en tout cas, si c'est des scénarios négatifs qu'on a en tête, donc de l'anxiété. Ce qu'il faut comprendre, c'est que...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare.
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Le fait d'être en action, ça va t'obliger, limite, à ne plus avoir tout le temps en tête ces scénarios négatifs ou même positifs. En fait, quand tu es en action, tu n'es plus en train d'imaginer les scénarios. Les scénarios, tu les imagines lorsque tu es en inaction. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait cette... On nous avait appris ça à la gendarmerie. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le dilemme un peu du prisonnier, où en fait, on met un prisonnier quand tu as deux personnes et que tu veux en faire avouer une. Alors, je sais pas si ça se fait en France ou si c'est même aux États-Unis ou même si ça se fait pas du tout, ou alors si c'est juste dans les films. Mais il y avait ça où ça s'appelle le dilemme du prisonnier, je crois, où en fait, quand tu as deux personnes et que tu veux les faire parler, tu les mets une... chacune dans une pièce différente avec un officier différent, et donc forcément le fait qu'elles soient coupées l'une de l'autre, même si elles ont hyper confiance en elles, même si ce sont des personnes qui justement avaient prévu ça et s'étaient dit à la vie à la mort on reste ensemble et on ne parle jamais, le fait d'être en inaction, le fait d'être coincé dans une pièce avec cette peur que la personne à côté balance tout et donc bénéficie d'une réduction de sa peine et puisse partir comme ça dans la nature, alors que toi t'es enfermé dans ta pièce et tu sais pas ce qui se passe et t'as peur de prendre une condamnation à cause de cette personne. Même s'il y avait énormément de confiance entre les deux personnes, le fait que ces personnes soient enfermées dans une pièce, c'est ce qui crée l'anxiété, c'est ce qui crée les scénarios, et donc c'est ce qui poussait souvent les deux personnes à avouer, au final, leur crime ou leur délit. Et donc, ce dilemme du prisonnier, je trouve qu'il représente bien le fait que, même si tu as confiance en toi-même, le fait d'être inactif, c'est ça qui va créer les scénarios, c'est ça qui va créer de l'anxiété. Et l'avantage d'être en action, c'est que ça t'empêche de te créer des scénarios. Lorsque tu cours, lorsque tu agis, lorsque tu fais quelque chose, tu es concentré sur la tâche que tu fais et donc t'es pas en train d'imaginer des scénarios. Et donc, naturellement, ta santé mentale va s'améliorer. Mais je l'ai quand même mis la santé mentale dans les quatre composantes de la vie, on va dire, parce que la santé mentale, selon moi, c'est un des seuls composants parmi les quatre, donc santé mentale, vie professionnelle, vie sentimentale et physique, qui peut réellement s'améliorer en quelques semaines. Et je sais que, et c'est un avis qui fera peut-être débat, mais la santé mentale de la plupart des personnes peut aller mieux en vraiment quelques semaines. Et je pense que j'ai l'impression que, et j'en avais parlé sur Instagram, j'avais eu confirmation de ça, j'en avais discuté avec certaines personnes. Être triste est à la mode dans les films en ce moment sur YouTube. Quand tu montres que t'es triste sur YouTube, tes stats augmentent. C'est aussi pour ça que j'ai l'impression que la pop culture aussi met ça en avant, parce que ça permet justement de plus s'identifier avec les personnes. Et je pense que c'est une bonne chose d'évidemment parler de santé mentale, de parler de tristesse, même de normaliser le fait de parler à un psychologue. Je pense que n'importe quelle personne devrait parler à un psychologue une fois dans sa vie. C'est pas simplement pour les personnes qui sont déprimées ou dépressives. Je pense que c'est important. Mais le point positif, justement, ma vision optimiste là-dessus, c'est que la plupart des personnes, même si elles se pensent déprimées, même si elles sont déprimées, même si elles sont tristes, même si elles vivent une période triste, une période de bas, ces personnes peuvent améliorer leur santé mentale en quelques semaines. En quelques semaines, tout peut changer. Et je l'ai vu énormément de fois avec des personnes à la salle de sport, avec des personnes que je voyais même dans ma vie, dans mon entourage, des personnes de mon entourage qui pouvaient être à J0, hyper déprimées, qui avaient même parfois des idées noires, et à J30, bien meilleures dans leur tête parce qu'elles s'étaient reprises en main. Nutrition, musculation, balade, même méditation pour les plus motivés, etc. Ça s'améliore vraiment extrêmement vite, la santé mentale, si on la prend en charge, évidemment, le plus tôt possible, parce que sinon, il y a aussi des questions de traumatisme, etc. Mais je pense vraiment que pour 80% des personnes, la santé mentale, déjà, 80% des personnes ne sont pas si si triste que ça. Je pense que c'est pas si profond que ça. Je pense que c'est dangereux de se dire que c'est pour ça que c'est dangereux, je pense, de voir beaucoup de contenu triste, de voir beaucoup de personnes qui parlent de dépression également sur TikTok ou sur YouTube ou peu importe, qui parlent de santé mentale, et ça c'est bien, mais je pense que si on reste tout le temps dans ce mood, si on reste tout le temps dans cette culture de la tristesse, je pense qu'on peut penser que c'est terminé en fait, on pourra plus jamais être heureux dans sa vie. Et pour l'avoir vu, pour l'avoir même expérimenté, on peut vraiment être beaucoup plus heureux dans quelques semaines. Tu peux être beaucoup plus heureux, tu peux être beaucoup plus heureuse dans quelques semaines, et ça passera par des étapes, ça passera par des habitudes à prendre qu'on connaît, qui sont gratuites la plupart du temps en plus. C'est balade, c'est parler à des gens, parler à un psychologue, parler à des amis ou parler à une caméra, comme le font beaucoup de youtubeurs, et ça aide la santé mentale de beaucoup de youtubeurs. Donc se balader, parler, méditer, tout ce qui est en lien avec la cohérence cardiaque, le fait aussi, c'est pour ça que aussi les douches froides m'aident beaucoup et aident beaucoup de personnes. Pareil, j'ai pas envie de donner des fausses informations, mais il me semble que ça avait un impact, la douche froide, sur le rythme cardiaque, justement, que c'était ça qui expliquait le fait que on est plus zen après avoir pris une douche froide, plus reposé. Et donc j'ai cité quoi ? J'ai cité balade, discuter avec des personnes ou avec soi-même d'ailleurs. Ça peut être aussi la méditation. Toute activité méditative qui te plonge dans un état de concentration où tu penses justement à autre chose que tes scénarios et tes angoisses, qui 90% du temps ne se produisent pas d'ailleurs, hein, tes scénarios, c'est une petite statistique offerte par Grégoire Dossier, mais c'est vrai, 90% de tes angoisses ne se produiront jamais, ok ? C'est aussi pour ça que ça s'appelle des scénarios. Ensuite, j'ai cité donc les douches froides, le sport, évidemment, le sport c'est un game changer pour la santé mentale, et l'alimentation exactement, évidemment. Alimentation, le fait de manger des vrais aliments qui ont des vrais nutriments et pas des aliments qui viennent d'industrie, qui payent des millions des chercheurs pour les rendre les plus additifs possibles et qui vont te faire te sentir bien sur le court terme mais mal sur le long terme. Et puis quoi d'autre, je sais pas, j'en ai pas d'autres en tête, mais déjà voilà, c'est quelques habitudes qui pourront t'aider à avoir une meilleure santé mentale. Et je te promets que juste te balader dans les prochaines semaines, courir si tu veux, sortir de chez toi, te balader, ça va améliorer ta santé mentale. Et vraiment, hein, et d'ailleurs j'ai vu un TikTok l'autre jour qui m'a fait rire, où c'était un gars qui, au début tu le vois en train de marcher, il est en train de marcher, donc il filme un TikTok, il est en train de marcher, tu vois qu'il est pas content dans le TikTok. Et il dit, vous savez ce qui me saoule le plus avec les balades pour la santé mentale, il dit, et tu vois que on attend un petit peu, on se demande justement pourquoi il est énervé, et il fait, c'est que ça marche en fait. Et ça me saoule, mais ça marche, il dit. Et je trouve ça exactement, c'est exactement ça, parce que ça saoule, ça paraît simple, trop simple, les santé mentales, prendre soin de sa santé mentale avec les balades, et en fait, ça marche. Tu sors, tu te balades 20 minutes, tu rentres, ça va mieux. Ça marche. On peut pas vraiment l'expliquer, on pourrait l'expliquer par le mouvement, par le fait de faire une activité physique, de sortir de chez soi, prendre de l'air frais, etc. Mais ça marche. Donc, c'est comme toutes les activités que j'ai citées plus tôt, ça marche. Si tu veux prendre soin de ta santé mentale, fais ça et ça ira mieux. Ok ? Donc, je reviens sur les priorités que tu voulais choisir, que tu vas devoir choisir. Santé mentale, vie professionnelle, vie sentimentale et ton physique. Ton amélioration physique, 4, donc ton amélioration physique, on va dire ta santé physique. Tu vois, il y a la santé mentale et la santé physique. La santé mentale, donc ça se passe ici, c'est ta pensée, comment est-ce que tu gères tes propres pensées. Et la santé physique, c'est comment est-ce que tu gères ton corps, ton rapport au corps également. Et puis, est-ce que ton corps, tu peux l'utiliser bien ? Est-ce que ton corps, tu peux courir avec ? Est-ce que ton corps, tu te lèves avec des mal de dos, des maux de dos, etc. C'est ton corps, c'est la santé de ton corps aussi, de tes articulations, etc. Si tu dois faire un choix entre ces quatre choses, quel choix tu choisirais ? Quelle chose tu choisirais ? Je te laisse réfléchir un petit peu à ça. Entre santé mentale, vie professionnelle, vie sentimentale et ton physique. Si tu devais prioriser parmi ces quatre choses, si tu devais choisir quelque chose, au moins prioriser sur 2 mois une de ces activités, une de ces priorités, laquelle serait ton choix ? Qu'est-ce que tu choisirais ? Vas-y, je te laisse réfléchir un petit peu. Et vas-y, je te laisse réfléchir. Ça me permet de faire une pause en même temps. Moi, j'ai choisi la vie professionnelle. J'ai d'abord choisi mon physique il y a quelques années, mais il y a 2 ans, j'avais choisi vie professionnelle. Parce qu'en effet, c'est pour ça que je te dis de faire une priorité. Tu n'arriveras pas à combler ces quatre composantes, on va dire, en même temps. Et c'est souvent la vie sentimentale qui prend un peu cher quand tu veux améliorer ton physique et donc que tu sors moins, bah tu rencontres moins de personnes et donc tu as moins de vie sentimentale. Quand tu veux améliorer vraiment ta vie professionnelle, tes études ou lancer un projet ambitieux en même temps que tes études, bah ta vie sentimentale, elle prend un petit peu cher. En tout cas, si tu es célibataire au moment où tu lances ces projets-là, parce que si tu es en couple maintenant et que tu veux améliorer ta vie professionnelle, ben, tu n'es pas obligé de quitter ton copain ou ta copine pour ça. Donc, en fait, tu peux, si tu es déjà en couple à ce moment-là, aujourd'hui, ben, c'est bien parce qu'en soi, la vie sentimentale fait déjà partie de tes priorités, c'est déjà une composante de ta vie et c'est probablement un équilibre aussi de ta vie. Mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont célibataires sur YouTube, qui regardent des vidéos YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui sont célibataires actuellement parce que je sais pas combien on est sur 100%, combien de célibataires, combien de personnes en couple, mais il y a beaucoup de personnes célibataires ambitieuses aussi qui ont envie de faire des choses. Et donc, si vous avez quelque chose à choisir parmi ces quatre choses-là, quelle chose vous choisirez ? Et faites un choix, parce que faites un choix pour je dirais au moins 2 mois, parce que vous n'arriverez pas à réussir toutes ces 4 choses en même temps. Et si vous choisissez, une fois que vous aurez fait votre choix, faites toujours la même démarche, la démarche que j'ai adoptée lorsque moi je voulais progresser dans un de ces domaines-là. Identifiez des personnes qui sont passées par les mêmes étapes que vous et qui ont réussi sur YouTube, sur les réseaux. Vous trouverez forcément des personnes qui passeront par les mêmes étapes sur les réseaux. Maintenant il y a une personne partout. Peu importe la situation que tu traverses, il y aura toujours une personne qui sera sur YouTube pour t'en parler. Donc choisis ces personnes, trouve ces personnes sur les réseaux, un petit peu comme je l'ai fait avec la musculation, en suivant des comptes de musculation. J'allais forcément tomber sur des personnes qui étaient comme moi, donc trop fines et qui voulaient se muscler. Donc je suis tombé sur des personnes qui avaient connu le même scénario que moi. Et ensuite, une fois que tu as trouvé des personnes qui te comprennent, qui sont passées par les mêmes problèmes, identifie les actions les plus importantes et les actions que font les personnes qui réussissent le mieux dans ce domaine. Sur YouTube, bah, c'est faire des vidéos de manière régulière, bien montée, avec une histoire, etc. Dans le sport, c'est s'entraîner, respecter les principes de l'hypertrophie pour la musculation, respecter les principes du crossfit pour le crossfit, respecter les principes des arts martiaux pour les arts martiaux, respecter les principes de quoi que ce soit comme sport, course à pied, peu importe. Et ensuite, juste faisant ta pure priorité, comme je le disais, avec ton environnement, mais bourre-toi le crâne de limite de clichés, mais de discours motivation cliché, mais vraiment, dis-toi que ces 2 prochains mois, ça va être vraiment, ou 6 prochains mois, en fonction de la priorité, de combien de temps ça va être ta priorité, mais vraiment, deviens limite le cliché, en fait, vraiment la personne qui va manger en pensant à ses objectifs, qui va dormir en pensant à ses objectifs, à ce qu'il va faire le lendemain de sa journée, de son temps, pour avancer vers ses objectifs. Tu seras vraiment hyper, ce sera une période agréable en fait, parce que tu seras aligné avec tes objectifs long terme, tu auras quelque chose à faire au présent, et justement ça aura du sens pour toi, parce que tu auras en tête justement le Graal, la situation que tu auras imaginé dans un an. Donc d'ailleurs, quand je te parlais de visualiser, si tu veux faire de ta priorité la santé mentale, ben, tu peux t'imaginer beaucoup plus confiant, beaucoup plus dans la gestion de tes émotions, beaucoup mieux dans la gestion de tes émotions. Dans ta vie professionnelle, tu peux t'imaginer avec ton métier de rêve, ou juste t'améliorer, te dire que tu t'imagines avec plus de compétences, même si ça peut être difficile à imaginer, j'avoue. Ta vie sentimentale, bah, c'est plus simple. Imagine-toi en couple, imagine-toi bien à l'aise à un date, bien à l'aise socialement, bien tchatcheur, bien tchatcheuse, bien dans ton corps aussi, surtout. C'est aussi ça c'est pour moi la chose la plus importante pour séduire quelqu'un, c'est d'être bien dans son corps et de transpirer la confiance en soi. Et donc imagine-toi confiant, confiante en toi, et tout se passera bien ensuite dans ta vie sentimentale, je te le promets. Et ton physique, donc tu peux t'imaginer plus musclé, même si, enfin, si c'est ton objectif, moi c'était le mien, même si c'est pas difficile à faire. Même en faisant du Photoshop, c'est assez difficile de s'imaginer musclé, je suis d'accord. Donc, mais en tout cas, vraiment imagine-toi. Et c'est dans tout le processus, en fait, dans tout le processus, tu dois t'imaginer dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Tu dois toujours garder en tête cette vision de ton futur toi qui est meilleur et qui est fier, qui n'attend qu'une chose, c'est que tu améliores son futur à lui, en fait. Tu dois avoir une vraie relation avec ton futur toi et tu dois le mettre bien. Là, en ce moment, je mets bien mon futur moi parce que cette vidéo, elle va rester sur YouTube et des personnes vont me découvrir avec cette vidéo ou des personnes vont apprendre des choses avec cette vidéo. Et donc, le futur Grégoire, bah, il aura peut-être plus de personnes qui le suivront, il aura peut-être plus de personnes qui seront contentes de l'avoir découvert. Et là, en ce moment, je sacrifie mon présent, je sacrifie du temps que j'ai à disposition pour mon futur moi, mais c'est du bon temps, c'est du bon temps utilisé, c'est une bonne utilisation de mon énergie. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas fait ça? Bah, je serais allé sur Netflix ou je regardais des vidéos, voilà. J'aurais pu prendre soin de ma santé mentale, mais en ce moment ça va assez bien et c'est en faisant aussi des vidéos comme ça que je fais des choses de ma vie et donc que je suis en bonne santé mentale. Mais voilà, aujourd'hui, en ce moment, je fais la chose qui a le plus de sens pour moi et donc je suis bien. Et toi, tu dois avoir aussi cette relation. Et donc, mon futur moi, il est content, tu vois. Mais toi, tu dois être pareil. Tu dois avoir cette relation avec ton futur toi. Tu ne dois plus le décevoir. Tu le décevras forcément parce que tu feras toujours des erreurs. Et j'en ai fait plein, moi, dans mon processus d'apprentissage. Et il ne faut pas justement être trop déçu de toi si justement tu fais des choses bien, puis après t'abandonnes, puis tu fais des choses bien, puis après t'es un peu moins régulier, mais ce qui compte c'est d'avoir cette progression sur les prochains mois en fait, et voilà, tu dois avoir cette relation avec ton futur toi, et donc choisis ta priorité, ça c'est la troisième étape. Première étape, notre identité évolue tous les jours. Deuxième étape, l'environnement c'est tout. Troisième étape, la priorité que tu vas devoir choisir, choisis-la, et puis comme ça tu auras vraiment un domaine sur lequel tu devras performer dans les prochains mois. Ensuite, quatrième point, faire partie d'une communauté. J'en ai déjà un petit peu parlé en parlant des réseaux sociaux parce que c'est pour moi le moyen le plus simple de se créer une communauté le plus rapidement possible. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu as une passion ce soir, tu peux te créer une communauté ce soir qui va penser comme toi, qui va agir comme toi, qui va avoir les mêmes intérêts que toi. Tu as juste à rejoindre un serveur Discord, une chaîne YouTube, parce qu'en fait, par exemple, si tu tombes sur ma chaîne YouTube et que tu veux t'améliorer, bah, tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes dans les commentaires qui sont comme toi, qui galèrent dans leurs études, qui ne sont pas motivées, qui n'ont pas d'objectifs, qui n'ont pas de sens dans leur vie à cause des études, etc. Et tu te rends compte en fait qu'il y a d'autres personnes comme toi. Donc, sans t'en rendre compte, tu intègres une nouvelle communauté. Et donc, rien qu'avec une vidéo YouTube, tu peux intégrer une nouvelle communauté. Et tu dois vraiment intégrer une communauté. Pourquoi ? Parce que ça a toujours donné du sens aux humains d'avoir une communauté. Ça, d'ailleurs, même avant de donner du sens, ça a permis aux humains de survivre. En fait, c'est un besoin de survie d'avoir une communauté. Tu as dû étudier au lycée la pyramide de Maslow avec les besoins physiologiques, psychologiques... attendez, je vais profiter qu'on soit en podcast pour aller vérifier pour pas dire de bêtises. Pyramide de Maslow. Je sais qu'en bas ça commence par les physiologiques. Ouais, c'est ça. Physiologique mais pas psychologique. C'est besoin physiologique en bas, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime et besoin d'accomplissement de soi. Ça évidemment on l'a pas pris au sérieux parce que ça venait de l'école et on prend rien au sérieux qui vient de l'école. On prend tout à la légère et on s'en fiche un petit peu de ce qu'on apprend à l'école. C'est notre esprit de rébellion. Mais cette pyramide, elle peut sauver la vie de quelqu'un. En fait, s'il arrive à comprendre ce qu'elle veut dire cette pyramide, elle est hyper importante en fait. Et donc le besoin, je dirais besoin primaire d'être humain, on a des besoins primaires d'être humain déjà, c'est important de le rappeler, dormir, manger, communiquer avec d'autres humains, faire partie d'une tribu, d'une communauté justement, et globalement avoir du sexe aussi. C'est un peu les quatre besoins primaires d'être humain. Et ça c'est les besoins que Maslow dirait besoin physiologique. Et faire partie d'une communauté, c'est ça. Et je parlais de la survie, c'est important pour survivre. Avant, c'était important d'avoir une... Si tu n'avais pas de communauté avant, tu serais pas là aujourd'hui. Enfin, si tes ancêtres n'avaient pas eu de communauté, bah, tu ne serais pas là aujourd'hui. Enfin, c'est juste pour la survie. Pas de communauté égale mort avant, pas de tribu égale mort avant, mort dans la nature, mort par un tigre à dents de sabre, je sais pas, mais tu serais mort en fait. La communauté c'était la survie avant. Maintenant c'est plus forcément la survie, mais c'est la santé mentale maintenant, la communauté. Et t'as besoin, et surtout le progrès, parce que quoi qu'on en pense, même si on aime bien, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, aiment bien travailler seules, aiment bien être indépendantes, sont parfois également introverties. On a besoin d'une communauté pour avoir du sens dans notre vie, pour avancer plus vite, et on a besoin de ça. Et surtout, il y a beaucoup de personnes qui manquent de sens dans leur vie, et beaucoup de personnes de 18-25 ans, je suis passé par là également, et si je peux vous donner un conseil, en dehors du fait que de vous améliorer vous, parce que vous améliorez vous, ça vous donnera du sens à vous, mais quand vous arrivez à comprendre que lorsque vous vous améliorez vous, vous faites avancer également votre communauté, tout change. J'aime, moi, me dire que... Donc, moi, je dirais que j'ai deux communautés, majoritairement, donc la communauté des sportifs et la communauté des youtubeurs. J'adore ces communautés. J'adore les valeurs de cette communauté. Ça m'a donné confiance en moi également, parce que quand je suis rentré dans la communauté des sportifs, on va dire, c'était pour moi cool, c'était valorisant parce que avant je faisais partie de la communauté des feignants et j'ai l'impression d'avoir upgrade, d'être passé dans une communauté plus valorisée socialement, où je me sentais mieux, etc. Et donc, je dirais que j'étais content, j'étais fier de ça. Et c'est hyper important, d'ailleurs j'ai une vidéo qui arrive sur la fierté également sur ma chaîne YouTube, mais c'est important d'être fier de soi, c'est important d'être fier de sa communauté aussi, et je vous jure que donner du... En fait, quand on pense communauté, on pense famille, et c'est sûr que c'est hyper important plus tard quand on fondera une famille d'être fier de sa famille, et d'être fier de soi, de ses amis, etc. Mais être fier de sa communauté, ça donne énormément de sens au quotidien. Et il faut bien choisir sa communauté, et il faut en avoir une, ou plusieurs d'ailleurs. Moi j'en ai deux en tête, mais j'en aurais sûrement d'autres si je prenais plus le temps de réfléchir. Mais il y a plein de communautés que j'aime, que j'ai envie de faire progresser, et que j'ai envie de représenter, en fait. Parce que qui m'envoie un mail à 23h? Qui m'envoie un mail à 23h? C'est quoi? Ah, c'est pour le montage. Je recrute un monteur en ce moment. Je recrute un monteur vidéo. Et donc, je reçois des demandes un peu tout le temps. Voilà. C'est bon, je me suis mis en mute. J'aurai plus de mail. Je reviens sur la communauté. La communauté, c'est hyper important. De sans t'en rendre compte, en fait, lorsque tu cours, tu représentes les sportifs. Lorsque tu fais des vidéos YouTube, tu représentes les personnes qui font des vidéos YouTube. Quand tu révises tes études, tu représentes les bons étudiants, on va dire, les étudiants qui se bougent, qui font des choses et qui se laissent pas abattre. Non pas que les étudiants qui se laissent abattre ou sont en décrochage, je sais pas, c'est des sous-étudiants. Au contraire, moi, j'ai beaucoup d'empathie pour les étudiants en décrochage, mais je veux dire que il faut t'imaginer faire partie d'un ensemble qui te dépasse toi, en fait. Il faut, même si j'aime bien me dire que je vais me recentrer sur moi, il faut que tu comprennes que tu fais partie d'un ensemble et que tu vas par tes actions parfois permettre à... Tu vas créer un courant juste de positivité, en fait. Et tu ne te rends pas compte, mais... Je sais pas, c'est vrai que individuellement, on a assez peu de pouvoir. Enfin, si par exemple tu vas courir demain, c'est vrai que tu n'auras pas la sensation de représenter les sportifs ou quoi que ce soit, mais déjà tu feras partie de la communauté des sportifs et donc tu seras fier de ça, mais tu devrais être fier en tout cas. Mais en fait, c'est bizarre, mais c'est. Comment dire ? Quand moi j'ai commencé à rentrer dans la communauté des sportifs, tu découvres en fait un nouveau monde et tu découvres les private jokes, tu découvres des membres, les personnes qui sont dans la communauté, comme je disais, avec les youtubeurs ou les influenceurs dans la communauté. Tu vas comprendre les blagues sur Twitter de en rapport avec ta communauté, et tu vas comprendre les références sur Netflix. Tu vas te rendre compte que tu commences à avoir de l'humour plus fin, plus dessiné. Tu vas faire des blagues plus fines en rapport avec ta communauté, et ça c'est trop bien pour un humain, et vraiment ça donne du sens à un humain. Et c'est vraiment le bon côté d'Internet, c'est que tu peux très vite rejoindre une communauté, et tu peux moi vraiment même récemment je me suis intéressé à la crypto-monnaie et aux nouvelles technologies, à la blockchain, et je commence maintenant à comprendre les blagues en rapport avec ça, et ça me fait rire parce que ça me fait rire, et en même temps ça me rend fier parce que je me dis que j'ai progressé dans mon apprentissage, et donc que je comprends maintenant les blagues que qu'un gars qui vient de rentrer dans la crypto ne comprendrait pas, et ça me fait plaisir, ça me booste mon ego et ça me rend fier, en fait. Et toi, tu justement, comme le but c'est d'être fier de soi et d'avoir du sens dans sa vie grâce à la communauté, tu dois rentrer le plus vite possible dans une communauté pour rentrer dans cette démarche-là, de découvrir un nouveau monde, de trouver des inspirations dans ce domaine, parce que moi, par exemple, les personnes qui m'inspirent dans le sport ne m'apportent pas les mêmes choses que les personnes qui m'inspirent sur YouTube, et ne m'apportent pas les mêmes choses que les personnes qui m'inspirent dans ma vie familiale, on va dire. Et tu vas prendre le meilleur de chaque communauté, et ça c'est trop bien. Et même j'en ai parlé un petit peu, mais je suis beaucoup le MMA cette année, ça fait un an que je suis le MMA, et j'ai appris énormément de choses, et c'est pareil, j'adore ce truc de rentrer dans une communauté, découvrir les acteurs de cette communauté, essayer de comprendre les blagues, pas comprendre tout au début, mais me former, me plonger à fond dedans, et puis me rendre compte que qu'il y a un monde en fait que je connaissais pas, et que c'est trop bien d'apprendre et de faire partie de cette communauté. Et c'est vraiment, je pense, la meilleure façon d'utiliser Internet, c'est ça, c'est de se créer une communauté de gens qui ont les mêmes passions que nous et qui vont nous pousser vers le haut aussi, surtout. C'est ça qui est le plus important. Il y a des communautés aussi, c'est purement divertissement. Alors c'est marrant, mais c'est vrai qu'on n'apprend pas grand-chose à la fin de la journée. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un petit peu des communautés de partout, mais des communautés qui nous poussent vers le haut, des communautés dont on est fier de faire partie et des communautés qu'on va avoir envie de représenter aussi. Et moi, je suis fier, par exemple, de me dire que j'ai peut-être créé des sportifs, hein, dans le sens, j'ai poussé des gens à faire du sport et donc que j'ai agrandi la communauté des sportifs, qui est pour moi une bonne communauté parce que c'est une communauté avec des bonnes valeurs. Enfin, les sportifs, ils causent pas de problème, en fait, je trouve. C'est des gens gentils. Les gens qui courent, c'est des gens gentils. C'est des gens, tu les croises, ils te disent bonjour, ils sont contents, ils courent, ils sont remplis d'endorphines, ils sont contents. C'est pas des gens méchants, les gens qui courent. Et donc je me dis que si j'arrive à agrandir cette communauté, je vais créer plus de gens gentils, je vais créer plus de gens remplis d'endorphines, de dopamine, qui voient la vie en rose et qui sont contents. Et voilà, il faut plus de gens qui courent le dimanche matin. C'est vraiment ça le but de ma chaîne. Bref, rejoindre une communauté, c'était la quatrième étape. Et la cinquième étape, et la dernière étape de cette vidéo, c'est de structurer une bonne journée. Maintenant que je te parlais de tout ça, je t'ai parlé de communauté, je t'ai parlé d'imaginer, je t'ai parlé aussi de l'environnement, de choisir ses priorités. Maintenant, il faut que tu gardes quelque chose de cette vidéo aussi, c'est de structurer à partir de maintenant une bonne journée. Donc c'est pareil, tu peux prendre un bloc-notes, tu peux prendre un papier et commencer à imaginer une bonne journée. C'est quoi, on va dire, imaginons que tu aies un objectif aujourd'hui, c'est quoi une bonne journée que tu vas pouvoir passer demain? C'est quoi une bonne journée où à la fin de la journée tu seras content de l'utilisation de ton temps? Qu'est-ce qui demain justifie le fait que tu te lèves et que tu te lèves de bonne humeur et que tu aies envie d'utiliser bien ton temps? Moi par exemple, si je peux te donner quelques conseils, c'était au début j'utilisais la stratégie 3-2-1. J'en ai parlé dans un podcast d'ailleurs, sur mon podcast, le podcast des étudiants, et j'avais expliqué que c'était donc 3 heures de travail productif, concentration optimale, un petit peu du deep work, on pourrait dire, 3 heures de travail, 2 heures d'apprentissage, donc connaissances, compétences, amélioration de ce que je peux faire avec mes mains ou avec ma tête, donc vraiment m'améliorer moi, purement de développement personnel, 2 heures de ça par jour et 1 heure de sport par jour. Cette structure, elle m'a aidé. Alors évidemment, on a tous nos cours. Je prends pas en compte les cours, les sorties, etc. On pourrait mettre 3-2-1-1 avec la vie sociale aussi, sortir une heure par jour, au moins parler avec une personne dans sa journée, etc. C'est important aussi. Mais essaye de définir ton 3-2-1, ton 4-3-2, peu importe. Donc, je sais pas, 4 heures de travail, 2 heures de travail ou je sais pas combien de temps, en prenant en compte évidemment tes responsabilités à toi que tu as déjà avec tes études ou avec ta vie de famille, ta vie personnelle, sentimentale, ta vie de couple, etc. Mais de trouver une structure d'une journée type qui pourrait être une bonne journée. Une journée, comme je te l'ai dit, qui justifierait l'utilisation de ton temps et qui te donnerait de l'énergie. Parce que la vérité, c'est que quand tu passes une bonne journée, tu te couches pas épuisé. Quand tu travailles beaucoup sur les bonnes choses, tu te couches pas épuisé. Ça, c'est ce que personne me croit quand je dis ça, mais quand j'ai travaillé, quand j'étais étudiant et que je travaillais sur YouTube le soir et que je faisais mes vidéos le soir en rentrant des cours et que je me couchais à 1h du matin parce que je faisais du montage ou je tournais des vidéos, je me couchais pas épuisé. Les seules fois où je me suis couché vraiment épuisé de mes études, c'est lorsque j'en avais ras-le-bol de mes études. Et là, j'étais épuisé mentalement, moralement, même physiquement. C'est dans ces périodes que j'avais le plus de symptômes de maux de dos, etc. Et en fait, c'est dans les moments où je faisais parfois le plus de choses, où j'étais en action et que j'allais vers le bon objectif, donc YouTube en l'occurrence, c'était je me couchais, j'étais fatigué forcément, j'étais fatigué comme tout le monde, j'avais envie de dormir à un moment, mais j'étais pas épuisé, c'était pas de la fatigue mentale, c'était juste, bah c'est bon, j'ai utilisé mon temps disponible et mon énergie disponible pour cette journée, je vais dormir et je vais passer à autre chose, mais j'étais pas épuisé. Et ça, c'est l'état d'esprit dans lequel tu devrais être et dans lequel tu vas te trouver si tu arrives à structurer une bonne journée, comme on essaie de le faire dans cette partie de ce podcast. Et donc, essaie de trouver ta structure à toi, ta bonne journée à toi. Parce que pourquoi c'est important de partir de la bonne journée? Parce qu'une bonne vie, c'est une bonne journée qui se répète. C'est des bonnes journées qui se seront répétées. Et avant de te dire comment tu vas passer une bonne vie, comment tu pourrais passer une bonne vie, essaie d'abord d'imaginer ce que pourrait être une bonne journée. Parce que, comme je te l'ai dit, on est une génération de court-termistes, il y a des avantages à ça, et donc tu devrais oublier un petit peu. Donc tu as déjà fait ton imagination, ta visualisation, on va dire, des 6 prochains mois, de ta version de toi-même dans un an. Maintenant, reviens aujourd'hui et comprends déjà que ce que tu vas faire aujourd'hui est lié à ta version de toi-même dans un an, mais reviens à aujourd'hui, reviens à demain sinon, et commence à préparer ta journée de demain, commence à structurer ta journée de demain, commence à pourquoi pas planifier un horaire de réveil, sauf si tu en as déjà un avec les cours, etc. Mais commence à prévoir cette structure, cette bonne journée. Imagine aussi une bonne journée, tu peux l'imaginer aussi. D'ailleurs, c'est une astuce que font beaucoup de sportifs de haut niveau, c'est avant de dormir, de visualiser la journée qu'ils font qu'ils vont faire le lendemain. Et avant une compétition, de s'imaginer arriver sur le court, sur l'octogone, sur la piste, peu importe, et de performer. C'est un truc tout bête, mais qui augmente, selon moi, tes chances de réussite, parce qu'encore une fois, une situation qui s'est imaginée, que tu as imaginée dans ta tête, a plus de chances de se produire dans la réalité. Donc moi, c'était le 3-2-1, c'était ma structure, donc 3 heures de travail extrascolaire, on va dire, donc 3 heures de travail sur un TD, parce qu'en fait, ça paraît pas beaucoup 3 heures de travail, mais quand t'as cours de 8h à 17h, ben après il te reste que de 17h à 20h, après moi j'avais mon sport de 21h à 22, et j'avais YouTube de 22 à 1h du matin en fait. Donc voilà, en fait, c'est pour ça que je dis 3 heures, mais c'est pas, je comptais pas les heures de cours dans mes heures de travail. Et tu te rendras compte d'ailleurs que la plupart des personnes, à part peut-être les étudiants en PACES et en prépa dans des périodes très spécifiques, ne travaillent pas non plus 12 heures par jour en fait, et on a tous une faculté limitée de concentration, et donc 3 heures par jour de travail concentré, peu importe tes objectifs, sur une activité c'est beaucoup, hein. Tu peux avoir des gros résultats sur le long terme si tu travailles 3 heures sur une activité chaque jour, ou même de manière régulière, mais pas forcément tous les jours. Donc ça, c'est ma structure d'une bonne journée. Et Une bonne structure, c'est... Moi, pourquoi est-ce que c'est une bonne structure, ça ? C'est parce qu'il y a une activité donc intellectuelle, le travail, il y a une activité sociale, qui est pour moi, la salle de sport, c'était un peu une activité sociale, mais moi, en fait, ce que je faisais, c'est que moi, j'allais à la salle de sport, et j'avais 20 minutes de trajet, et j'appelais toujours une personne sur le trajet de la salle de sport. Donc, je mixais un peu, on va dire, je parlais à un humain, même si je sortais pas en boîte, j'avais pas une vie sociale incroyable, mais encore une fois, c'était pas ma priorité à ce moment-là. Mais voilà, j'avais 3 heures de travail, donc activité intellectuelle, 2 heures d'apprentissage, donc pareil, activité intellectuelle, et 1 heure de sport avec la salle de musculation. Et donc ça, c'était l'aspect social, en fait. Mais si tu arrives dans ta structure à avoir une activité intellectuelle, une activité sportive et une activité sociale, plus bonus, une activité où tu prends soin de ta santé mentale, t'auras passé une bonne journée. Et c'est ça, une bonne journée. Si tu n'arrives pas à définir vraiment ce qu'est une bonne journée, c'est ça, une bonne journée. Et si tu veux passer une bonne journée et que tu arrives à avoir ces 3 facteurs, social, intellectuel et c'était quoi, santé mentale, ta vie sociale, ta vie professionnelle et aussi ta créativité, on va dire, un truc qui stimule ta créativité, bah tu auras passé une bonne journée en fait, parce qu'en tant qu'humain on est fait pour ça, on est fait pour passer par plusieurs phases, pour pas faire toujours la même chose toute la journée, mais pour passer par des phases où tu vas d'abord faire bouger ton cerveau, faire réfléchir ton cerveau, puis après faire bouger ton corps avec l'activité physique, et puis ensuite prendre soin de ta santé mentale, et puis ensuite communiquer avec des humains, donc prendre soin de ta vie sociale, enfin prendre soin de tes compétences sociales aussi, donc de sortir un petit peu, de voir d'autres personnes, et là tu auras passé une bonne journée d'humain accompli, et c'est ça pour moi une bonne journée. En tout cas, peut-être que toi ce serait une définition différente, mais si aujourd'hui tu n'as pas de définition d'une bonne journée, si tu ne sais pas encore structurer une bonne journée, commence avec ça, commence avec le 3-2-1, ok. Est-ce que j'ai tout dit? Je vais faire un petit récap, donc avant qu'on passe à la conclusion de cette vidéo, qui est importante, donc attends un petit peu avant de partir. Petit récap, notre identité évolue tous les jours, imagine la situation parfaite, l'environnement c'est tout, la priorité, tu vas devoir choisir une priorité parmi les 4 que je t'avais proposées, tu vas devoir faire partie d'une communauté si tu veux améliorer ta vie rapidement, et tu vas devoir commencer à structurer une bonne journée, maintenant également, pour demain, après avoir écouté ce podcast, commencer la meilleure journée possible et commencer à avancer en direction de tes objectifs. Maintenant, j'aimerais faire une petite conclusion pour revenir au titre en fait, de cette vidéo, qui est le fait de changer de vie en un an. Je pense aussi, et je ne l'ai pas précisé, que tu devrais, non pas comme la plupart des personnes, t'imaginer accomplir un objectif, dans le sens, tu devrais pas te dire, oh, j'ai envie dans un an d'être cette personne ou de d'accomplir juste cet objectif. Tu devrais pas forcément avoir un objectif d'accomplissement, mais plutôt un objectif de fuite. Comme je te l'avais dit en tout début de ce podcast, souvent, si on veut changer son identité, si on a envie de changer de vie, c'est aussi parce qu'on en a marre de la vie d'avant. Et donc, qu'on a envie de vivre une vie en opposition à ça, et de devenir une nouvelle personne. Et de plus représenter la personne qu'on était avant et qui n'était pas nous, en fait, qui nous représentait pas ou qui ne nous représentait plus, parce que justement on évolue sans arrêt. Un objectif de fuite, c'est justement dans un an, si le fait de te dire dans un an je vais être telle personne, je vais représenter ça, je serai telle personne, je vais être une personne meilleure, je vais avoir une meilleure version de moi-même, si ça suffit pas à te motiver, dis-toi que dans un an, tu ne veux plus être la personne que tu es aujourd'hui. Et donc, si ça ne marche pas, comme je l'ai fait un petit peu depuis le début de ce podcast, de te parler de tout ce que tu pourrais faire de plus, tout ce que tu pourrais améliorer, donc tes compétences, ta confiance en toi, si ça ne te motive pas assez, pense à tout ce que tu n'aimes pas chez toi aujourd'hui, toutes les douleurs en fait, appuie sur les douleurs. Repense à cet échec d'il y a quelques semaines qui t'a fait mal. Repense à cette rupture il y a quelques semaines qui t'a fait mal. Repense à cette remise en question que tu as eue il y a quelques semaines qui t'a fait mal. Repense à toutes les choses qui ne te donnent plus envie de vivre ce que tu as vécu ces dernières semaines ou ces derniers mois. Dis-toi aussi que si tu ne changes rien, ça va revenir, parce que la vie te prévient souvent plusieurs fois. Et j'étais tombé sur une phrase qui résumait très bien ça, qui te disait que si jamais tu comprenais pas l'enseignement de la vie la première fois, elle allait te représenter l'opportunité de le comprendre une autre fois. Dans le sens où, si tu comprends pas la première fois le message et que tu en tires pas les bons enseignements, la vie, elle va venir te le remettre une autre fois à la face, ce visage, jusqu'à que tu comprennes le message. Il y a des personnes qui comprennent jamais le message d'ailleurs. Mais c'est si tu as eu dans les dernières semaines un échec, une remise en question, comme beaucoup de personnes, mais qui t'a fait mal, pense à ça en fait. Dis-toi que tu dois, pour ta santé mentale, pour toi, pour te protéger, parce que ça fait mal les échecs, ça fait avancer, ça fait grandir, mais ça fait mal, ça peut, si on en a trop, ça peut détruire une personne également. Donc il faut te construire une carapace, et dis-toi que dans un an, au lieu de te dire je vais être cette personne qui sera meilleure, qui fera toutes les bonnes décisions, etc., qui une personne un peu idéale, dis-toi que tu vas fuir la personne que tu es actuellement pour arriver à cette personne-là. Dis-toi que tu as envie de fuir, en fait, ces choses qui t'ont fait mal ces dernières semaines, et ça te motivera beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que, retour à l'humain de Cro-Magnon, retour aux homo sapiens qu'on était il n'y a pas si longtemps que ça, et d'ailleurs dont on a hérité le cerveau qui est toujours assez archaïque, fuir te donnera toujours plus d'énergie que cueillir, par rapport aux chasseurs-cueilleurs aussi qu'on était. Si je reprends un exemple avec le fameux tigre aux dents de sabre, si tu avais le choix entre cueillir des fruits magnifiques et sucrés et échapper à un tigre aux dents de sabre, tu fuirais, parce que la peur serait bien plus importante, te donnerait beaucoup plus d'énergie que l'envie de cueillir l'objectif, l'envie de cueillir du coup le fruit en l'occurrence. Et donc, pour revenir à la vie d'aujourd'hui, si aujourd'hui ça te motive pas assez d'imaginer une situation parfaite que tu pourrais cueillir dans un an, dont tu pourrais profiter dans un an, dont tu pourrais récolter les fruits dans un an, pense à l'objectif, pense au tigre dans le sabre d'aujourd'hui, donc toutes tes douleurs, toutes tes souffrances que tu n'as plus envie de revivre. Et donc pour ça tu dois devenir forcément une meilleure personne, tu dois apprendre de tes erreurs et donc tu dois progresser. Et donc si ça te motive plus, il y a des chances que ça te motive plus, pense comme ça en fait, pense en termes de fuite. Et moi je pense qu'en effet, si ces dernières années, si j'ai provoqué des changements assez vite dans ma vie, c'est parce que j'avais vraiment envie de fuir la personne que j'étais, parce que je sentais qu'elle allait se faire défoncer dans la vraie vie, dans le monde réel en fait. Se faire défoncer physiquement, parce que je faisais 55 kilos et ça me plaisait plus, j'avais plus envie de représenter ça, et se faire défoncer mentalement par la société, par les humains aussi, par certains humains, par les événements de la vie. Et je voulais plus, j'avais peur de ça, j'avais envie de fuir ça, parce que j'avais compris que Si la version que j'étais il y a quelques années, si qui est en train d'être lâchée dans la nature comme ça, de faire des études qui ne lui plaisaient pas forcément, et de devoir se débrouiller un petit peu toute seule malgré l'éducation que j'avais reçue évidemment, hein, mais voilà, j'étais tout seul dans mon appartement, j'étais éloigné de la famille, je commençais à découvrir la vie d'adulte, il fallait que que justement je sois plus solide mentalement et physiquement, et le Grégoire que j'étais il y a quelques années n'aurait peut-être pas survécu, on va dire, mentalement à ça, dans le sens aurait pu avoir des problèmes en fait dans sa vie s'il n'avait pas pris plus de responsabilités. Et donc moi j'avais envie de fuir ce Grégoire que j'étais avant et de progresser, et cette fuite m'a donné beaucoup d'énergie, beaucoup plus que peut-être si je m'étais juste dit ouais j'ai envie de devenir une meilleure version de moi-même, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça un petit peu la conclusion de ce podcast, parce que je pense qu'on l'a, j'ai rarement entendu un conseil comme ça. Il me semble que c'est Jordan Peterson qui l'avait formulé la première fois un petit peu de cette façon-là, en parlant de fuite, en parlant d'avoir peur de répéter les mêmes erreurs et donc de justifier un changement rapide dans sa vie. Et je pense que c'est un très bon conseil, et je pense que ça pourra t'aider, en tout cas si tu écoutais, si tu es arrivé jusqu'à la fin de ce podcast et que t'es arrivé à ce moment là et que t'as vraiment compris l'essence de ce conseil, je pense que ça t'aidera et que tu auras un avantage par rapport à la plupart des personnes de ton entourage ou des personnes dans le monde en fait qui ne voient pas les choses comme ça. Donc voilà, trouve ta fuite, trouve la personne que tu as envie de fuir. Ça veut pas dire d'oublier complètement la personne que tu étais, mais par exemple, moi j'aime bien me dire que j'ai toujours gardé mon enfant intérieur, mon enfant, ma partie enfantine, le Grégoire qui faisait des blagues au lycée, je l'ai toujours un petit peu au fond de moi. C'est juste que j'ai dû le faire évoluer pour pas qu'il se fasse défoncer par la société et pour pas qu'il se fasse défoncer par son manque de, justement, d'ambition, son manque de créativité, son manque de responsabilité, etc. Et voilà, il faut évoluer de toute façon. C'est pas une honte d'évoluer, c'est nécessaire. Et donc je pense que on peut à la fois garder son âme d'enfant, on peut à la fois garder son âme de ce qui faisait qu'on était un jeune libre, qui s'amusait, etc., qui n'avait pas de complexe, et en même temps essayer de se créer une carapace, d'évoluer un petit peu pour pas non plus être à la merci de tout le monde et à la merci de tout en fait, de société, vie, des marques, de la nourriture, des addictions, etc. Donc voilà, il faut se préparer quand même à la vie, et je pense que plus vite on se prépare et plus vite on évolue et mieux ça se passera pour nous. Donc voilà, c'était ça ce podcast. Je me rends compte que j'ai beaucoup parlé, c'est le podcast le plus long du coup pour l'instant de ce podcast, de cette série de podcasts. C'était le 8e épisode, c'était le premier épisode solo. J'espère que vous aurez appris quelque chose, j'espère qu'il vous plaira cet épisode, et voilà, c'est juste un partage d'expérience, et c'est ça ce podcast. Et d'ailleurs j'en profite pour finir ce podcast en disant que l'avantage de ce podcast, c'est que je vous ai présenté des profils et je vais continuer de vous en présenter. Et l'intérêt, c'est que à la fois ce podcast, il est là pour vous apprendre des choses et en même temps pour vous proposer des personnes qui ont également des choses à vous dire. Et si vous ne savez pas par quelle personne commencer, si vous ne savez pas quelle personne suivre, bah essayez de voir les personnes que j'ai interviewées sur le podcast, de voir si elles ont des objectifs, les mêmes objectifs que vous, ou alors qu'elles ont atteint les objectifs que vous voulez atteindre. Et ça sera peut-être un bon point de départ. En fait, c'est ça l'intérêt de ce podcast, c'est à la fois de donner des conseils pratiques et en même temps de présenter des personnes qui ont également appliqué ces conseils et qui ont également créé quelque chose d'intéressant dans leur vie pour vivre la meilleure vie possible. Et c'est vraiment pour moi le cœur même la bonne partie du développement personnel. C'est s'améliorer soi et ensuite améliorer les autres avec son évolution, inspirer les autres avec son évolution. Et donc voilà. C'est ça aussi le message de fin. Il y a plein de personnes intéressantes sur Terre dont on peut prendre de l'expérience, et j'en ai présenté quelques-unes sur le podcast et j'en présenterai d'autres dans les prochaines années. Et voilà, merci à vous encore une fois pour le soutien sur le podcast, et j'espère que cet épisode en tout cas vous aura plu et que vous apprécierez aussi les épisodes en solo. Dites-le moi en commentaire, dites-le moi sur YouTube si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Et puis nous on se retrouve donc dans une semaine pour le prochain podcast, tous les jeudis à 17h. Nouvel épisode de la semaine prochaine. Je ne sais pas si c'est un invité ou si ce sera encore une fois en solo. Je suis en train de prévoir les invités, donc peut-être que ce sera encore un épisode en solo. Mais voilà, je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode du podcast de Grégoire Dossier. Merci de l'avoir écouté et on se retrouve très bientôt. Ciao.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.